Bonjour les amis. C'est une énergie, moi, énergie bizarre. Comment ça va? Vous allez bien? L'énergie bizarre du gars qui n'a pas beaucoup dormi. Je sais pas si vous connaissez, je suis sûr que vous connaissez. C'est paradoxalement, quand tu dors très peu, t'es fatigué, et en même temps, t'as un petit coup de boost, je sais pas, un truc qui... Tu vois, je sais pas. Puis en vrai, j'ai dormi. J'avais une soirée un peu marrante hier soir avec un tournage très particulier pour une vidéo. Pour répondre à la curiosité de Tilfassa qui pose la question à l'instant, pourquoi t'as pas beaucoup dormi? Tournage un peu particulier pour une vidéo YouTube en tant que guest. Il y avait notamment l'ami Étoile. En ce moment, avec Étoile, on se croise, mais partout, sans arrêt, sans faire exprès. C'est très drôle. C'est-à-dire que les gens nous calent dans des trucs. C'est très mignon. Donc ça, c'est cool. Et donc une vidéo YouTube qui va sortir dans un mois, je crois, avec deux gros streamers YouTubeurs, deux amis. Et le rendez-vous pour le tournage était à minuit. C'est-à-dire 20h. 20h, ça aurait été bien. Minuit. Minuit, un tournage d'une heure et demie. Alors là où c'était carré, c'est que le tournage avait duré toute la journée pour l'équipe. Grosse prod autour de ces deux streamers YouTubeurs. Et bien, ils étaient à l'heure. Ils étaient à l'heure alors que... Ils ont un peu leak le tournage? Ouais, il y a eu des leaks. Alors que souvent, que ce soit dans le monde de la télévision ou d'Internet, as-tu été rémunéré? Oui, je suis direct. Il n'y a que ça qui vous intéresse là-dessus, non? Tom Thompson, P75, là. Hein? Oh non, on n'était pas sûr pour Name. Camille. Ah, ça dépend de la forme de la question, quand même. Tu vois, ouais. Name, je te... Camille, tu me permets, je... Ouais, c'est bon. Oui, tu vois, faut... Tu vois, attendons la prochaine... Non, mais Camille, c'est adorable, en vrai. Tu as raison sur le fond. Mais, tu vois... Oui, c'est-à-dire qu'il faut être sûr que c'est mal intentionné, quoi. Name, excuse-nous. Non, mais c'est la volonté de protection, vous êtes cool. Donc, est-ce que on est rémunéré quand on participe à une vidéo YouTube? Alors, chacun fait ce qu'il veut. Moi, non. Bah, quand je suis invité en guest dans une vidéo YouTube d'un ami, de toute façon, je vais pas aller dans une vidéo YouTube de quelqu'un que j'aime pas. Attendez, on est pas complètement, tu vois. Autant se faire plaisir. Donc, quand j'apparais dans une vidéo YouTube d'un ami, enfin, d'une vidéo YouTube, ouais, parce que je ne vais que chez les gens que j'aime bien, on va pas s'emmerder non plus. Non, je ne demande jamais de rémunération. Voilà. Et c'est un truc qui se fait. Bon, je sais qu'il y a pas mal de... Parfois, j'ai fait venir... Enfin bon, je ne vais pas vous donner les détails de mon économie, mais parfois, je fais venir les invités dans des projets à moi et je propose des dédommagements, des fees, quoi, pour que les gens ne se déplacent pas pour rien. Ce qui est normal, quand il y a une opération, quand il y a un sponsor, moi, je trouve que tout le monde doit participer, doit profiter, quoi. Et puis, il y a des gens qui ne t'envoient pas la facture. Il y a des gens, parfois, qui t'envoient pas la facture. Et notamment, qui sont en mode, qui te disent « Ouais, les pas de ça entre nous, la prochaine fois, tu viendras chez moi, et puis ça ira bien, quoi. » Tu vois? Et donc, par exemple, dans les gens que j'ai rejoints hier soir, c'est un peu les gens comme ça, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est un truc... Alors, échange de bons procédés, voire relation amicale, en fait. Tu vois? Donc, voilà. Donc il y a pas de fil là-dessus. Et donc le tournage a eu lieu à minuit et les gens étaient à l'heure, alors que c'est une grosse prod, un tournage qui va durer toute la journée avec beaucoup de gens, et normalement ce genre de prod, elle a du retard. Et donc moi j'étais en toute fin de journée avec Rayou. Et donc on avait rendez-vous à minuit et l'équipe était là et les gens étaient prêts et il y avait pas de retard, ce qui est très rare, tu vois. Normalement, les retards auraient dû s'accumuler toute la journée et on aurait dû tourner à 2h du mat, quoi. Tu vois. Et en fait, non. Et on a passé un bon moment. Je rentrais à la maison, il était 2h du mat. Et du coup, entre 20h et minuit, qu'est-ce que j'ai fait? Et surtout entre 22h et minuit, puisque les journaux n'étaient pas prêts avant, eh ben, j'ai lu les journaux de ce matin. Parce que quand tu es abonné au Monde... à Libération, au Parisien, au Figaro, à l'Opinion, à Les Échos, à La Croix, à l'Humanité, aux Échos, pas à Les Échos, à l'Humanité, à l'Équipe, etc. Ben en fait, les journaux, tu commences à pouvoir les télécharger à partir de 22h, tu vois. Voilà. Le Parisien, L'Équipe, un peu plus tard. Un peu plus tard. Mais du coup, bah, quand je suis parti à minuit, j'avais lu les journaux. Et donc, quand je suis rentré à 2 h, je suis allé au lit. J'ai croisé mon épouse qui était en train de bosser. Je rentre à 2 h, je me grignote un petit peu. Tu vois, je vais au lit et là, personne. Hein, et moi, ok, je me dis, oula. Donc, je suis dans une petite pièce qu'on a au fond qui est une chambre d'enfant où il n'y a pas d'enfant pour l'instant parce que j'ai 2 enfants et il reste une. On a acheté il y a très longtemps un appartement où j'ai mis toute ma vie pour potentiellement avoir 3 enfants un jour. Et donc c'est un bureau. Et je vais au fond de l'appart et Madame Étienne, Hélène, 2 h des brouettes en train de bosser. Petite insomnie. Voilà. Et donc, elle a dormi encore moins que moi. Du coup, je pense que je me suis endormi vers 3 h. 3 h, je me suis levé à 8 h, puisque tout était allumé, mais j'ai dormi 5 h. Et donc, 5 h, c'est cool. Bonjour, merci d'avoir participé à la campagne détox de l'Inserm. Me dit Bleu du Vercors, sujet ô combien important. Ouais, c'est cool, je suis content de ça. On vous souhaite bientôt un troisième. Alors, bon, moi, j'ai jamais caché que je voulais avoir plein d'enfants, tu vois. Mais après, est-ce qu'on aura un enfant, un troisième enfant? Est-ce qu'on aura un troisième enfant? Est-ce qu'on aura un quatrième enfant? Est-ce qu'on aura un cinquième enfant? Est-ce qu'on aura un sixième enfant? Ça, je sais pas. Ça, c'est la vie qui décide, c'est la nature qui décide. Si on a un, tant mieux. Si on n'a pas, c'est très bien aussi, tu vois. On a déjà la chance d'avoir deux adorables petits garçons d'une gentillesse avec des cœurs comme ça, tu vois. C'est waouh. Déjà, on est béni des dieux, tu vois. Donc voilà. Ark Raiders, oui, je sais, il retourne jouer à ça en ce moment. Comment tu peux te le permettre, mais tellement full enfant là. Ah, c'est le truc de l'écologie là, KVS. Le problème, c'est pas tant le nombre d'habitants sur la planète. Je te la fais courte parce que c'est un sujet très important dont tu parles, dont on a parlé pendant des heures déjà sur cette chaîne. À chaque fois qu'on a un nouvel article sur la natalité, sur la fécondité dans le monde, la baisse du taux de fécondité, le fait qu'on fait moins d'enfants qu'avant, ce qui pose des problèmes dans certains pays pour financer le système de protection sociale d'ailleurs, parce que tu as plein de gens qui sont par exemple à la retraite, et puis il n'y a plus personne pour travailler, pour cotiser, parce que ces gens font moins d'enfants, etc. Donc à chaque fois qu'on parle du sujet. Ah, tu parlais de financier, KVS. Ah, ok, je pensais que tu parlais du poids écologique de l'humanité, ce qui est un vrai sujet. Et très vite, je vous la fais très vite là-dessus. Moi, ma position là-dessus, c'est que d'abord, il faut oublier cette idée que la planète va crouler sous le nombre d'humains. Puisqu'en fait, on sait maintenant. Salut, craque dur! Ça fait plaisir, monsieur le VIP. Il faut oublier l'idée que la planète va craquer sous le nombre d'humains, crouler, parce qu'en fait, les démographes savent que d'ici quelques années, on va atteindre un pic d'habitants en France, pardon, dans le monde, parce qu'en fait le nombre de naissances est en train de baisser radicalement sur la planète, dans tous les pays, pas seulement les pays riches. Hein. Le taux de fécondité des femmes est en train de baisser. On fait moins quand on fait. Salut Joe Boule. On fait moins d'enfants qu'avant pour plein de raisons. Voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs. Et donc on va atteindre un pic d'habitants sur la planète autour de 10 millions, si je dis pas de bêtises. Et après ça va baisser. Après ça va baisser. Voilà. Et la charge, le problème aujourd'hui n'est pas tant le nombre d'habitants que la manière dont ces habitants se comportent. Et notre planète, elle souffre. Elle souffre. Elle est abîmée. Non pas par le nombre d'humains, mais par la manière dont une partie de ces humains, singulièrement dans les pays les plus développés et les plus riches, abîment cette planète. C'est-à-dire qu'en fait, si ces 10, 11 milliards d'habitants font attention à la planète dans leurs déplacements, leur consommation, etc., bah en fait, on peut la préserver, on peut éviter de l'abîmer. Mais si tous ces habitants se comportent comme des gougnafiers, c'est un vieux mot ça, des gens irresponsables, on a. Salut mon crack dur, ça fait vraiment plaisir de te lire. On n'a même pas besoin de 11 milliards d'habitants. Avec 5 milliards d'habitants, tu la mets en l'air. Voilà. Comment peut-on avoir des enfants dans un monde pareil? Tu sais, il y a des gens pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était quand même un des pires moments de l'humanité, qu'on continue à faire des enfants. Il y a même eu un baby boom, les boomers. Les boomers, ça vient de là. L'expression les boomers. Les boomers, ça vient de baby boomer. Ça vient et de baby boom. C'est l'explosion du nombre de naissances après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les gens, notamment en France, mais un peu partout. Après la Seconde Guerre mondiale, qui était un des pires moments de l'histoire de l'humanité, hein, au moment où les gens ont dit non, c'est pas possible, en fait, quand on voit les atrocités dont l'humanité est capable, on va pas avoir d'enfants, quoi. Eh ben, voilà, ils ont fait un RP lapin, comme dit Graham, c'est ça, on n'a jamais fait autant d'enfants qu'à ce moment-là, quoi. Parce qu'à un moment, alors l'humanité, un truc qui marche bizarrement, quoi. Avec l'humain, l'homme, la femme, capable du pire comme du meilleur. Mais il y a aussi une notion d'espoir qui fait que avoir un enfant, qui n'est pas une obligation, hein. Hein. Lâcher la grappe sur la question des enfants aux gens. Hein. Les gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, les gens qui veulent des enfants, les gens qui veulent un enfant. Voilà. Mais c'est un choix personnel, quoi. Donc, les gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, on peut être très heureux sans avoir d'enfants. Voilà. Et on peut aussi être très heureux avoir des enfants. Donc déjà, ça, c'est un choix personnel. Donc, que chacun proclame son choix, c'est une chose. Moi, je veux pas d'enfants. Ça, c'est bien. Moi, je veux des enfants. Mais par contre, ne jugez pas le choix des autres. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Je dis voilà. Donc, avoir un enfant, c'est à la fois un truc... C'est très paradoxal, parce que c'est à la fois un truc extrêmement égoïste. Ah, c'est à la fois un truc extrêmement égoïste. Dans mon cas, moi, j'aime bien l'idée d'avoir une famille nombreuse. Parce qu'en fait, j'ai toujours rêvé de constituer une famille pour plein de raisons. Voilà, mais c'est un truc très personnel lié à mon chemin de vie. Donc, c'est un projet personnel. Alors, il se trouve qu'on le partage avec mon épouse. Donc, ça tombe bien. Donc, c'est un truc qu'on fait pour soi parce qu'on aime. On aime être parent, on aime avoir des enfants. Je trouve que c'est les plus beaux moments qui m'aient été donnés de vivre, c'est avec ma famille. Et avant, avec mon papa, avec ma maman, avec mes frères et sœurs. Mais encore une fois, c'est un choix très personnel. Donc c'est à la fois un truc très égoïste, et en même temps, c'est aussi une proclamation d'espoir, de foi en l'avenir, quoi. En se disant, le monde qui arrive est peut-être pas... aussi désastreux que celui qu'on vit par certains aspects aujourd'hui, et peut-être que ces enfants justement se comporteront mieux que nous sur notamment la question environnementale qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. Mais donc une fois qu'on a dit tout ça, proclamons tous individuellement nos choix. Et ma meilleure amie, elle a pas d'enfant et elle est très heureuse comme ça. Et elle est sûrement plus heureuse sans qu'avec, parce que son chemin de vie fait qu'elle n'a elle a pas cette envie de créer famille, hein, pour des raisons très personnelles qui sont liées au hasard de la vie aussi. Et puis moi, à l'inverse, si j'en avais pas, je serais moins heureux que je ne le suis, quoi. Voilà. Donc proclamons notre choix, mais en revanche, respectons infiniment le choix des autres, quoi. En ne déclarant pas ah oui mais non, je comprends pas qu'on puisse avoir des enfants dans un monde comme ça. Voilà. Ou à l'inverse, ah non, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas avoir d'enfants, c'est extrêmement égoïste, mais toi on t'a bien donné la vie, si tu es là c'est bien parce que tes parents ont fait ce pari. Tu vois ce que je veux dire ? Ne jugeons pas ce choix personnel, parce que ce désir d'enfant, il est le fruit d'un chemin particulier, d'un chemin personnel particulier. Voilà. Et puis, la question tout à l'heure était pas, que m'a posée un viewer n'était pas une question d'ordre environnemental et écologique, puisqu'il m'a pris, c'est vrai, c'est une question financière. Alors moi, j'ai cette chance, c'est aussi un luxe, d'avoir trouvé, il y a longtemps déjà, le métier qui était ma passion, et qui a fait que j'ai beaucoup travaillé sans trop m'en rendre compte, puisque c'était pas vraiment du taf, c'était beaucoup de plaisir, le journalisme, la radio, la télé... Internet depuis 5 ans maintenant, et j'en vis très correctement. Voilà. Ce qui me permet de ne pas être stressé par le poids financier qu'est celui d'avoir des enfants et de fonder une famille. Voilà. Ah, attendez, laissez-moi voir un message. Ah non, tu t'es trompé. Il y a culotte, très joli pseudo, qui dit « Mais depuis quand vous supprimez les messages sur le live de Samuel, je pensais que c'était un de ses principes de ne pas le faire. » Ah non, non, non. Il faut une modération sur les lives. Hein. Ah non, non, non. La liberté d'expression, ça n'est pas la liberté de dire n'importe quoi. Il y a un cadre dans un pays qu'il y ait un cadre légal, des règles que la société a décidées, que les gens ont décidées ensemble, pour encadrer le vivre ensemble. Je pense qu'il parle du dernier message supprimé. Attends, je vais essayer de remonter pour voir ce qui a provoqué cette réaction de culotte. Qu'est-ce qui a été supprimé comme message? Et puis, selon les chaînes, chaque chaîne, en fonction de son créateur de contenu, de ses modérateurs, de sa communauté, bien, établit ses propres... Je vois pas le dernier message qui a été supprimé. Établit ses règles, qui sont des règles de vivre ensemble, hein, qui évoluent d'ailleurs. Je ne vois pas le message, par contre. Parce qu'il y a trop de messages, je pense que je peux pas remonter plus haut. Et voilà. Voilà. Donc, bien sûr qu'il y a de la modération, bien sûr. Une chaîne... C'était le message de Calcarotte 11. Je vais aller voir. Une chaîne où il n'y a pas de modération, ce sera un enfer. Hein. Un enfer. Hein. Tiens, je vais lire le message qui a provoqué cette suppression. Parce que je peux... En revanche, je peux avoir l'historique du viewer. Let's go. Alors, je l'ai. Ah oui, c'était un petit message qui sentait un peu le racisme. Alors oui, vous savez qu'on a, on a un pays où le vote FNIR-RN monte. Voilà, ce qui libère une certaine parole. Ce qui libère une certaine parole. Il y a des propos qu'on tenait au café, au bar avec les copains... à une époque, notamment au moment de l'apéro, et puis qu'on disait pas trop fort en dehors, quoi. Mais maintenant, il y a une parole qui se libère, quoi, parce que ah oui, méfiez, le voisin il vote comme moi et tout. Donc ouais, cette parole, on la comment dire, on l'encourage pas, nous. On l'encourage pas trop, effectivement. Oui, donc je confirme qu'il y a bien des règles ici, qui sont que mes règles. Hein. C'est-à-dire que certains vont dire « Ah mais non, mais c'est vrai ce qu'il a dit, je comprends pas, pourquoi on a modéré ce message, on peut plus rien... » Le fameux « on peut plus rien dire », voilà, mais aucun problème, hein. Ça ce sont mes règles, nos règles. Voilà. Et si ces règles ne conviennent pas, bon les gars, il y a combien de milliers de chaînes Twitch en France, quoi. Ça, j'ai aucun problème avec ça. J'assume totalement la subjectivité de ce live. Moi, il y a des messages que je ne veux pas voir. Mais en vrai, si cette modération-là, cette philosophie-là ne vous convient pas, moi, j'ai aucun problème avec ça, quoi. Dans le chat Twitch, je vois un énervé là sur France Télévisions. En vrai, ça m'en touche une sans bouger l'autre, hein, parce que je suis pas salarié de France Télévisions. Tu dis ce que tu veux. Hein. Ça, je veux pas. Si tu pensais que je suis qu'en étant ici, ça fait de moi l'avocat de France Télévisions, tu te trompes. Donc, écris ce que tu veux. Écris ce que tu veux. Si t'as du temps à perdre, c'est pas mon problème. Bon, comment ça va vous sinon? Merci culotte pour ta réponse qui est trop cool. Tu vois, culotte qui posait la question tout à l'heure, ben en fait, a trouvé que l'explication était OK, quoi. En tout cas, super passage au Grand Cactus. C'est fou ce qu'on parle de cette émission en Belgique, là. Faut dire qu'elle est belle. Ça manque en France. Hein. Un grand talk. Je crois qu'elle est bimensuelle, cette émission qui s'appelle le Grand Cactus en Belgique. Voilà. C'est moi, ça ne me dérange pas d'être banni. Mais tu n'es pas banni, la preuve c'est que tu peux écrire. J'assume et ça montre que tu peux avoir de tous les partis politiques qui sont là. Ouais, mais tu n'es pas banni, mon chouchou. Tu n'es pas banni. Supprimer un message, ça n'est pas bannir. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, le Grand Cactus, émission incroyable en Belgique. C'est un talk bimensuel à peu près. Et en fait, en France, ça manque des grands talks comme ça, avec des humoristes, avec des imitateurs, avec des sketchs... C'est une très très bonne émission, quoi. Très très bonne émission. T'as hâte à ce soir? Qu'est-ce que j'ai ce soir? Oh putain, oui! Oh, je suis con. Mais oui, oh putain. Je vous ai mis le visuel en gros. Salut Patrick. Patrick Cohen. C'est pas le vrai Patrick Cohen, c'est un autre. Enfin, si, il s'appelle peut-être Patrick Cohen. C'est notre Patrick Cohen à nous. C'est pas le Patrick Cohen, c'est un autre. Et oui, bah oui, ce soir. Ah oui, on va rigoler. Ouais, Émilien, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un immense candidat des 12 coups de midi qui a joué pendant quoi? Genre 2 ans, non? Hein? Hein? Pendant 2 ans? Il y a Cathy CP qui continue à déblatérer sur France Télévisions parce que je lui ai dit que on s'en foutait et que tu pouvais dire ce que tu voulais, donc il continue. Continue, si ça te fait du bien. 630 jours, 21 mois, voilà. 643 émissions, donc beaucoup. Voilà. Et Emilien, bon, bah, il vit sa meilleure vie. Il a fait une perf de fou aux 12 coups de midi. Et puis là, il prend un peu de temps pour lui, en attendant de reprendre ses études éventuellement. Il voyage un petit peu. Ouais, il gère son garage aussi, puisque comme Emma le rappelle, il a gagné 23 voitures. Hein? Donc... Et donc Emilien, qui est devenu un créateur de contenu, qui est devenu un streamer, Emilien, vous pouvez trouver sa chaîne sur Twitch. Eh bien, Emilien, ce soir, on l'initie à Valorant avec la commu, avec les viewers. On lui montre un petit peu Valo, ce jeu du démon. Ce qu'on a fait déjà également récemment avec Carlito. Ouais, avec Carlito. J'espère qu'il les a vendus. Oui. Oui, je crois. Enfin, j'espère. Bon, à mon avis, il a dû en donner une ou deux à ses proches, tu vois. Mais qui a besoin de 23 voitures, quoi? J'ai remercié aucun sub, c'est honteux. Ok, pardon. Alors merci Zeldam06, merci Cheb69, merci Jeubi, merci Choucajohn, merci Tortue à chaise, pardon, merci Patate, Patchouli et Jack le Fou. Salut Jojojo. Oh, hey, pardon les amis de TikTok. Hier, donc j'ai lancé un live sur Twitch et sur TikTok. Twitch, ça fait 5 ans qu'on y est, et TikTok en live depuis la rentrée, donc. C'est la matinée Étienne, la revue de presse, je la propose sur les deux plateformes le matin. Mes autres lives, par contre, ne sont que sur Twitch. Et donc, hier j'ai lancé, et puis j'ai eu un petit bug de caméra, uniquement sur TikTok. Voilà, j'ai pas réussi à recréer la scène. Et plutôt que perdre un temps précieux qui pouvait durer 5 minutes comme une demi-heure à réparer TikTok. Bien, je vous ai dit, désolé, ami de TikTok, je vais voir ça après le live. Et effectivement, après le live, j'ai recréé une scène, il y avait un petit problème d'acquisition de caméra. Et donc j'ai coupé le live TikTok. Certains nous ont rejoints sur Twitch, donc je m'excuse pour ça hier. Et puis sachez que tous les jours maintenant, vous avez aussi cette matinée Étienne, cette revue de presse en podcast audio à partir de 15-16 h pour l'exclamation podcast dans le chat Twitch. On est sur Deezer, on est sur Spotify, on est sur Apple Podcasts, etc. Et je suis très content de vous le proposer aussi en podcast audio. Voilà. Bon, on va pouvoir y aller vite fait. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On se fait un petit peu l'actu? Je vous enlève le visuel d'Emilien. Il est là. Et je vous l'enlève là aussi. Voilà. Let's go! J'adore ce que tu fais, Samuel. Dédicace à Tom. Tom, spécial dédicace pour toi, mon ami. Bien faire dédicace. On y go? Ok. Bon, moi, j'ai pris une bonne résolution. Pourtant, on n'est pas au début de l'année. En ce mardi 4 novembre 2025, je vais essayer de faire des sommaires moins longs parce que je me suis rendu compte. Et personne ne le dit parce que vous êtes quand même sympa avec moi. Tiens, je vous mets le sommaire, justement. Ah, ça y est, on a passé le bonjour déjà. Mes sommaires sont quand même un peu longs. Je fais des sommaires. Avant chaque revue de presse depuis 5 ans, je fais un sommaire où je dis, bah, aujourd'hui, on va parler de ça. C'est pour dire à ceux qui ne peuvent pas rester 2-3 heures avec nous, ah bah, voilà ce qu'il y a dans l'actualité, comme ça, vous êtes quand même au courant. Mais mes sommaires, parfois, ils durent une demi-heure, quoi. C'est-à-dire, et hier, par exemple, tout ce que j'avais envie de dire, d'important, je l'ai dit dans le sommaire. Et après, quand les articles reviennent, j'ai l'impression de me répéter, quoi. Alors, l'engagement que je prends ce matin, c'est de faire des sommaires un peu plus courts. Merci Roctali. Merci beaucoup pour le soutien. Voilà. Voilà. Et puis là, on est en train de bosser. Merci les modos, d'ailleurs. Et puis, il y a un viewer qui nous a proposé de mettre en forme le sommaire de façon un peu plus jolie. Et puis les modérateurs ont relayé cette proposition et Joe s'est mis dans la boucle. Donc on est en train de préparer un sommaire un peu plus joli que celui là, que j'ai mis en place là. C'est toutes les plateformes audio, le podcast Miaxray. Voilà. Mais en attendant, on a celui-ci. Comme ça, ça vous donne l'essentiel de l'actu. OK ? Allez, let's go. Je vous mets la petite flèche qui va bien. OK. Vous avez... OK, ça, c'est normal. Allez, la petite flèche sur le sommaire. Comme ça, vous savez qu'on est passé du bonjour au sommaire. La petite flèche, c'est pour vous dire où on en est. Comme ça, ceux qui nous rejoignent en cours de revue de presse, on n'est pas obligé d'être là au début, ils savent exactement où on en est, ce dont on a déjà parlé, ce dont on va parler. Alors, on va faire... Et je m'engage à ce que ce sommaire il soit court. Voilà. Hein? Sinon, c'est plus un sommaire. OK, let's go. De quoi on parle ce matin ? Alors, hier matin, je vous ai dit, oh là là, flemme de vous parler de ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale autour du budget, parce que ça vote, ça propose des amendements, hein, est-ce qu'on crée de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, qui est touché, blablabla, blablabla, le déficit, et donc chaque député ou presse qui va de sa proposition, voilà, c'est très beau, il y a une belle activité à l'Assemblée. Mais le problème, c'est qu'on ne sait même pas si tout ça va être conservé dans le texte qui va être voté au final pour plein de raisons. Donc hier, je vous ai dit flemme de tout vous raconter, puisque ça se trouve, dans un mois, on se rendra compte que rien de tout ça n'a été gagné, que c'est le texte du gouvernement qui a été voté, ou alors un texte vachement réduit après la commission mixte paritaire, etc. Et ce matin, quand même, je vous ai trouvé un petit article qui vous résume tout ça, qui vous résume en gros... Où on en est de ce vote du budget ? Pourquoi c'est compliqué ? Pourquoi c'est long ? Voilà. Et je me suis dit, certes, on est sûr de rien, mais c'est quand même important, je vais vous en parler. Ça, c'est un article du Parisien. Le Monde se penche sur la même chose. Voilà. Donc, alors, oubliez, hein, Citroën, Berlingo, Van, je ne vous en parle pas. Bon, si vous cherchez une camionnette, manifestement, vous avez une OP, là. Le Monde se penche sur le même sujet. C'est la une du Monde, dernière édition. Alexandra, on est dans le sommaire. On est dans le sommaire. Calmez-vous. Calmez-vous. Le risque de l'impasse parlementaire, c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que peut-être que tout ça va déboucher sur pas grand-chose. Le Monde nous explique ça bien. Et puis quand même, pour se régaler, parce qu'on adore parler des impôts en France, voilà, des impôts qu'on va payer, des impôts qu'on va pas payer, des impôts que les autres paient. Voilà. Eh bien, il y a quand même un petit article sur ce nouvel ISF, hein. Ce nouvel impôt, alors qui n'est pas tout à fait l'ancien impôt de solidarité sur la fortune, qui n'est pas tout à fait non plus l'ancien IFI, impôt sur la fortune immobilière, qui est un nouvel impôt sur la fortune improductive. Rien ne garantit qu'il va être voté au final, mais comme il y a eu des débats intéressants là-dessus, je vous en parlerai. Arrêtez, on est dans le sommaire, arrêtez de me donner des TC. On est dans le sommaire. Ouais. Ah, vous voulez un TC pour le sommaire ? Ah, ok. Ah oui, si, vous avez raison. Mais oui, vous voulez un TC pour le sommaire. Vous avez raison. On va mettre combien ? On va mettre combien à la louche ? On met 30 minutes. Ouais. Mais oui, c'est vrai. 30 minutes. Ok. Donc, on va se pencher là-dessus. Ah, alors hier, le chat a toujours raison. Le chat hier me disait, quelques-uns dans le chat, mais tu parles pas de l'affaire, comment dire, Shane, c'est comme ça que ça se prononce ? Shane, c'est ça ? C'est la bonne prononciation ? Shane ? Shane, bon, en même temps ça vient de Chine. Shane, ok. Bon, oui, parce que j'ai bien vu qu'il y avait une polémique. Mais je trouvais que l'article n'était pas fou. Eh ben, c'est la une de Libération ce matin, on va en parler. Salut Jérôme. Shein en France, parce que tout le monde sait qu'on dit Shein. Ça vient de She Inside. Ah, Samus me dit que Shein. Ah ouais, ok. Et donc, Libération pose la question, mais qui peut l'arrêter ? Le géant chinois de l'ultra fast fashion. Alors, ultra fast fashion, bon, vous connaissez le sujet. Hein, c'est ces vêtements produits dans des conditions de travail douteuses, voilà, avec une production gigantesque, avec des vêtements qui viennent de l'autre bout de la planète, qui cassent les prix, avec un coût social, humain, écologique, surréaliste. Donc déjà, à la base, le modèle, il est problématique. Et là, il y a une autre polémique qui se rajoute dessus, quoi. Le géant chinois de l'ultra fast fashion débarque mercredi en physique, donc c'est plus seulement par colis, quoi, sur Internet, au grand magasin parisien, le BHV, qui est un grand magasin mythique, hein, qui va pas très fort d'ailleurs en ce moment, sur fond de polémique autour de la vente sur la plateforme en ligne Shein d'une poupée à caractère pédopornographique. Voilà, c'est la polémique sur la polémique. Et donc, bah, Libération, on fait un gros dossier ce matin. Ah, Sugar, t'étais pas au courant? Ouais. Alors, pour être très précis, on verra dans le dossier, ça n'est pas directement sur le site Shein, c'est sur, comment on appelle ça là, tu sais, les marques associées, là, ceux qui achètent beaucoup sur Internet, vous savez ça. Vous savez, la marketplace. Voilà. Voilà, la marketplace. Mais bon, les gens disent, bah attends, c'est votre marketplace, c'est à vous de vérifier ce qu'on propose. Et sur la marketplace de Chine, vous avez des poupées aux allures d'enfants, hein, aux allures d'enfants, à caractère pédopornographique. Voilà. C'est des vendeurs tiers, voilà, exactement. Donc on va se pencher là-dessus, dossier dans Libération. Voilà. Vente de poupées pédopornographiques, ces entreprises se foutent du monde, on lira tout ça. Voilà. Autre sujet, je vais vite, je suis dans le sommaire hein, pour l'instant. L'anti-Trump à la conquête de New York, je vous en ai déjà parlé hier, mais je vais vous en reparler parce que le vote c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les New-Yorkais, les New-Yorkaises élisent leur nouveau maire et il y a un grand favori. Hein? J'ai des messages bizarres. Ah, ben Zayuyu, j'étais pas sûr. Salut Zayuyu, bonne journée à toi. Et donc c'est aujourd'hui. Je sais pas à quelle heure est le résultat, par contre. Avec le décalage. Je sais pas à quelle heure. Je pense que c'est dans la soirée. C'est fait, homme, je m'en suis occupé. Je m'en suis occupé. Et donc le grand favori, c'est lui. Il se présente lui-même comme un démocrate socialiste, ce qui est un mot un peu étrange, socialiste aux États-Unis, mais c'est lui qui le revendique. Il s'appelle donc. Putain, c'est marrant, je crois qu'il ne mettait même pas son nom d'ailleurs. Zoran Mamdani, voilà. Et. Alors, il ne peut pas être élu président des États-Unis parce qu'il n'est pas né sur le sol américain. Voilà. En revanche, il peut être élu maire de New York, voilà. Et il peut, s'il est élu aussi, peut-être donner une inflexion à la manière dont le Parti démocrate s'oppose au président Trump, puisqu'il est, il représente une partie de l'aile gauche du Parti démocrate. Voilà. Et pourquoi il a de fortes chances d'être élu maire de New York? Ben en raison d'une personnalité, aussi d'un programme, hein, d'un programme qu'il a proposé aux New-Yorkais et aux New-Yorkaises. New York, ça n'est pas les États-Unis. On dit souvent que New York, c'est la ville la plus cosmopolite des États-Unis. Voilà. Et on se penchera sur ce programme qui a fait le succès de cet homme, en tout cas dans cette ville. Il est grillé à New York City, même sa popularité est nulle. Et, attends, Echo, attends, attends, Echo, excuse-moi, Echo. Juste, est-ce que je prends juste en photo ton message? Comme ça, si jamais il est élu tout à l'heure. Je te donnerai rendez-vous demain dans la revue de presse. Voilà. L'IA et Sora 2. Réseau social Sora 2. Grosses inquiétudes. L'affolante dérive des vidéos faites par IA. Sorte de TikTok de l'IA, la nouvelle invention de l'entreprise derrière ChatGPT a réussi une prouesse en un mois, offrir un concentré du pire des deepfakes. D'un Martin Luther King raciste à Michael Jackson voleur de nuggets. En France, où l'outil n'est même pas encore accessible, le youtubeur Thibaut InShape a aussi fait l'objet de détournements problématiques. Voilà. On est sur des deepfakes parfois difficiles à confondre, Voilà. Par exemple, Thibaut Inchep, lui, il s'est livré une expérience. Il a dit, bah, allez-y, servez-vous de Sora 2 avec mon visage. Ça m'amuse, faites-le. Et puis, quand il a vu le résultat, quand il a commencé à se faire insulter par des gens qui ont vu des deepfakes de lui, tout en pensant que c'était des vrais, voilà, il a dit, wap, 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 c'est quoi cette dinguerie? Il n'y a pas que Thibaut Inchep qui le pense. Voilà, on est effectivement sur un truc qui est une dinguerie, c'est le fait de pouvoir faire ou faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et on a de plus en plus de mal à distinguer du vrai du faux. Ça pose beaucoup de questions. Et on se penchera dessus. Qui nous propose cet article assez intéressant d'ailleurs? C'est dans Libération. Voilà. Et puis on finira avec ce sujet que je trouve assez intéressant. Un syndicat en France pour l'e-sport. L'e-sport, compétition de jeux vidéo, une nouvelle économie, des stades qui se remplissent, des équipes incroyables, des performances au niveau mondial, un spectacle de plus en plus intéressant, mais aussi beaucoup de questions sur le modèle économique, la fragilité de ce modèle, et puis les conditions de travail aussi, parce que c'est un travail, hein. Et il y a un syndicat français d'e-sport, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et je vous en parlerai. Voilà. Alors, c'est pas mal, non, ce matin? Voilà, voilà pour le sommaire. Vous avez vu? J'ai essayé de faire plus court que d'habitude. Efficace, ouais, exactement. Et maintenant, bah, du coup, on va passer au budget. Et il est 41 minutes, ok. Hop, je vous mets 42 parce que le temps d'y aller. Hop. Voilà. Et TikTok aussi. Vous avez le droit à votre petite flèche. Hop. Bientôt, on aura un nouveau sommaire qui devrait automatiser tout ça. Enfin, je sais pas quoi. On va voir ça. Hop. Voilà. Bon. On y va? Let's go. Salut Alexandra. Ah, merci, oui, mon petit Malo s'est cogné la lèvre, il s'est pris un petit lampadaire sous le chemin de la cantine hier midi, mais tout va bien, merci, c'est adorable. Tout va bien, il est pas trop abîmé, petit chouchou. C'était plus de peur que de mal. Vous êtes prêts? Let's go? Alors c'est parti. Les amis, bonjour et bienvenue dans la matinée Étienne, la revue de presse. Tous les matins, du lundi au vendredi, du 9h, 10h, du 10h, 13h, depuis 5 ans sur Twitch, depuis la rentrée sur TikTok et également désormais en podcast audio. Merci de nous écouter sur les plateformes de podcast audio. En général, on poste ça à partir de 15-16h sur toutes les plateformes de podcast audio, les Deezer, les Spotify, les Apple Podcasts, etc. C'est parti. De quoi parlons-nous? Pour commencer, on va parler du budget. Hier, je vous disais, putain, je ne vais pas vous raconter tout ce qui se passe à l'Assemblée. Moultes amendements dans tous les sens, de nouvelles recettes, nouvelles taxes, nouveaux impôts. La droite, la gauche, l'extrême droite, ça propose de partout. Sauf qu'au final, on ne sait absolument pas si tout ça va être réellement adopté, puisque il y a de grosses incertitudes sur le texte final, sur le budget qui sera au final voté et donc qui s'appliquera. Donc hier, j'ai fait l'impasse, mais ce matin, je me suis dit, je vais quand même vous raconter. Je vais quand même vous raconter ce qui se passe à l'Assemblée parce que c'est très intéressant. Le vote du budget, c'est pas gagné, nous dit Le Parisien, petit article, page 9, mais qui résume très très bien ce qui s'est passé. Entre les amendements à n'en plus finir et les orientations contradictoires, le projet de loi de finances pour 2026 semble parti pour s'enliser. Pourquoi plein d'amendements? Pourquoi ça prend du temps? Parce que vous savez que l'exécutif, le président Macron, le gouvernement Lecornu, n'a pas de majorité à l'Assemblée. Ça fait un moment que ça dure, ni majorité absolue, ni même majorité relative forte. Et du coup, ils ne peuvent pas faire passer un budget macroniste. Hein. Ils n'en ont pas les moyens, les forces politiques. Du coup, Sébastien Lecornu a dit, dites donc les partis à l'Assemblée, chiche, moi je vous promets de ne pas utiliser le 49-3. Je vous promets de ne pas utiliser le 49-3 pour faire passer en force un budget, puisque nous n'avons pas suffisamment de députés pour le voter. Donc, à vous de travailler. À vous de travailler, à vous de proposer un budget, Un budget, c'est donc des recettes et des dépenses hein, sur une année pour un pays. Donc on parle du budget 2026. À vous de travailler. Soyons intelligents, soyons constructifs. Et puis, ben, construisez un budget. Et à qui il s'adresse? Ben, aux députés de tous les partis. De gauche, de droite, d'extrême droite. Voilà. Et c'est ce travail qui se passe en ce moment, qui est à la fois passionnant, fascinant, mais qui prend du temps aussi. Merci Sinfarge pour le soutien. Merci Nuk Nuk. Merci Panda Nirio. Merci Bruno. Merci Mathias. Et le problème, c'est que ben, un débat sur le budget, il est encadré dans le temps. Il ne peut pas durer 10 ans. Pour que la France ait un budget, ces discussions doivent durer un certain temps. Et si ce délai, si ce temps, il est dépassé, eh ben, y a des règles qui s'appliquent, qui font que toutes les discussions qu'il y a eu avant, je vous résume ça à l'extrême, toutes les discussions qu'il y a eu avant, tous les amendements, toutes les propositions, même s'ils ont été votés, ben, à un moment, ça peut dégager. Voilà. Le vote du budget, c'est pas gagné, nous dit le Parisien, lisons l'article. Voilà bien longtemps que l'issue des budgets sur que l'issue des débats sur la première partie du budget 2026 paraît inéluctable. Il était tout bonnement impossible que les députés parviennent à boucler l'examen des milliers d'amendements dans les temps ce lundi soir. Personne ne fait obstruction, relève pourtant une députée, mais les débats riches de l'aveu de tous s'éternisent. Donc c'est pas tellement de l'obstruction parlementaire. Hein. Chacun joue le jeu. Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe à l'Assemblée. C'est-à-dire que vraiment, il y a un travail de fond. Le gouvernement le fait exprès. Non, écoute, Jay, Mike, pour l'instant, penchons-nous sur le travail parlementaire. Tout le monde s'accorde à dire dans tous les partis que les députés, là, ils bossent sérieusement. Hein. C'est pas de l'obstruction, mais les débats riches de l'aveu de tous s'éternisent et les efforts concédés pour accélérer la cadence n'y ont pas changé grand-chose. Le problème, c'est que ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Les échanges dans l'hémicycle vont désormais laisser place à l'examen du budget de la sécurité sociale. Donc il y a une pause. Il y a une pause dans actuellement la discussion sur le budget. Là, on va parler de la Sécu. Un texte tout aussi sensible, si ce n'est plus pour le gouvernement, blablabla, blablabla. C'est dire si l'issue des discussions est aujourd'hui illisible. Là, on parle du budget. Les députés eux-mêmes s'y perdent en conjoncture. Il y a ceux qui dénoncent une folie fiscale, puisqu'il y a des taxes, des impôts qui ont été votés par les élus de gauche, mais aussi par les députés Rassemblement National. Voilà. À droite, du côté des macronistes, on dénonce une folie fiscale, une charge trop importante, trop accrue sur les Français, essentiellement les plus riches, et les entreprises. C'est ce que dit Laurent Wauquiez chez les Républicains. Voilà, le ministre de l'économie, Roland Lescure, parle même de sorcellerie. Le Premier ministre avait demandé à la ministre des Comptes publics de procéder à un état des lieux quotidiens du budget. Voilà, elle s'est montrée plutôt rassurante en début de semaine, en disant, au vu de ce qui a été voté là par les députés, bon, on est à un déficit autour de 4,7%. C'est à peu près, c'est ok. Voilà, loin, très loin du discours que cette même ministre tenait vendredi dernier après le vote d'une refonte plutôt, de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, les idées de génie, qui avait remplacé l'ISF, l'IFI voulu par Macron, qui était un impôt sur la fortune mais uniquement immobilière, hein, et qui pourrait être remplacé par un nouvel impôt. Hein. Impôt sur la fortune improductive, hein, et le gouvernement et la droite disent « mais c'est n'importe quoi cette histoire ». Et dans un instant, avec Le Monde, je vous dirai ce qu'il y a dans ce nouvel impôt, à supposer qu'il s'applique un jour, n'oubliez pas. Il faut qu'on arrête de créer des impôts, disait les ministres. Alors, en fait, si on devait résumer tout ce qui se passe actuellement à l'Assemblée d'une phrase, ce serait celle-ci. Trop ou pas assez d'impôts. Ces questionnements pourraient lourdement peser au moment de voter le budget. Pour être adopté à l'Assemblée, il devrait être approuvé par l'ensemble du socle commun. Socle commun, c'est l'alliance macroniste, centre-droit-droite, hein, en comptant sur l'abstention des socialistes, mais aussi des écologistes et des communistes. Voilà. Impossible, au sein du bloc central, certains semblent très mal à l'aise avec ce qui a déjà été voté, puisqu'il y a de nouveaux impôts. Et du côté des macronistes, pour faire simple, on n'est pas trop pour, puisque... L'un des totems du président Macron au cours de ses deux mandats, ça a été de baisser les impôts et au contraire de ne pas les augmenter. Merci GG Blues, merci Léa Gaufrette, merci Rebonk, vous êtes incroyable. Merci Bruno, merci René, merci Jérôme. Voilà. Pour les élus macronistes et de droite, voilà, la copie actuelle fait très peur. Voilà. Au Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy ne semble pas plus emballé malgré les victoires arrachées la semaine dernière, parce qu'il y a pas mal de choses voulues par le RN fiscalement, avec de nouveaux impôts qui ont été validés, mais ils sont pas plus enthousiastes que ça. Le RN qui dit ce budget n'a jamais été cohérent et seul le gouvernement sait ce qu'il deviendra. D'autres, comme le député EPR Charles Cid-Sensul, invitent plutôt à savoir raison garder. Je trouve exagéré de parler de budget Frankenstein. C'est de la paresse intellectuelle. On sait que l'écriture de ce budget sera chaotique. Le texte qui compte, là on rentre un petit peu dans le détail et c'est très intéressant. Le texte qui compte est la version finale du projet de loi de finances qu'on appelle le budget. Après la CMP, la commission mixte paritaire, la CMP qui est une instance de 7 députés et de 7 sénateurs mixtes paritaires, voilà, censés trouver une voie de compromis sur le texte. Voilà. Car, écrit le Parisien ce matin, il semble de plus en plus inenvisageable que les députés aillent au bout de l'examen de ce budget à l'Assemblée avant la date limite du 23 novembre. Voilà. Avec près de 2000 amendements à examiner, auxquels il faudra ajouter ceux de la partie sur la sécurité sociale, la tâche semble insurmontable. Qui aura envie d'endosser un budget dans lequel il y a trop d'impôts pour les uns, pas suffisamment pour les autres? Si on entend éviter des baisses de dépenses, se demande un président de groupe du Socle commun, en cas de rejet du vote recette du projet de loi de finances, puisque là en ce moment on est en train de se pencher sur les recettes, le Sénat reprendra les travaux. Je ralentis parce qu'on est vraiment l'essentiel de l'explication. Le Sénat reprendra les travaux à partir de la copie initiale du gouvernement, comme si l'Assemblée n'avait pas travaillé. C'est ce que j'essaie de vous résumer tout à l'heure. Bon, ceux qui veulent une promo sur la camionnette, là, sur cette page du Parisien, vous avez manifestement une promo très intéressante pour le Citroën Berlingo-Van, je vous laisse la lire. C'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de passionnant à l'Assemblée en ce moment. Les députés de tous bords font des propositions d'ordre fiscal, certains pour augmenter les impôts, certains pour les baisser. C'est plutôt les partisans de l'augmentation des impôts qui ont gagné ces différents bras de fer, sauf que on va sans doute dépasser les délais de l'examen du débat sur le budget. Et si ces délais sont dépassés, ce qui semble être le cas, parce que on s'y est mis très très tard, vous savez que le débat sur le budget a énormément de retard, avec tous ces gouvernements qui sont succédés, qui ont sauté, ces motions de censure, ces demandes de confiance, etc., etc. Eh bien, si ça dépasse, le Sénat reprendra les travaux après l'Assemblée à partir de la copie initiale proposée par le gouvernement, c'est-à-dire que tous les amendements proposés par l'Assemblée, voilà, les députés, ça va où ça? Ça va à la poubelle. Voilà. C'est pour ça que ces derniers jours, je ne vous ai pas raconté en long et en large tout ce qui se passe à l'Assemblée, parce qu'il y a un monde où tout ça, dans quelques jours, on va se dire, ben, vous oubliez, on repart sur le texte du gouvernement. Waouh! Voilà. Mais c'est pas inintéressant quand même d'en parler. Voilà. D'ailleurs, Le Monde y consacre sa une. Voilà. Budget, le risque de l'impasse parlementaire. Sébastien Lecornu, donc c'est le Premier ministre pour ceux qui l'ignorent, il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Sébastien Lecornu devrait rencontrer lundi les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée, alors que le débat budgétaire se poursuit. Une semaine après le début des discussions, Matignon redoute l'éventualité de ne pouvoir doter la France d'un budget au 31 décembre. Parce que vous êtes nombreux à dire, ouais, c'est un scandale, les députés bossent, c'est hyper démocratique, je vous lis, hein. C'est formidable ce qui se passe, pour une fois que ça bosse, et c'est pas normal. Oui, sauf qu'en fait, dans une démocratie, y a des règles et il y a un laps de temps qui est consacré à l'examen du budget. Et il faut qu'en gros, la France ait un budget au 31 décembre, quoi. Donc, et c'est ça le souci. Donc, Matignon redoute que la France n'ait pas un budget au 31 décembre. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite? À gauche, les stratégies différentes du PS et de LFI enveniment un peu plus les relations déjà tendues entre les deux formations politiques. Le jour où les socialistes et les LFI s'entendront, il se passera des choses intéressantes. Les députés ont voté la création d'un impôt sur la fortune. Ça, je vais vous en parler. Édulcoré. La Cour des comptes a examiné le projet de sécu et note qu'un effort de redressement est entamé. Bon. Alors, je vais essayer de lire en diagonale cet article du Monde sur ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée pour voir s'il y a des choses que le Parisien ne dit pas. Et surtout, on se fera un petit coup de projecteur sur ce nouvel impôt qui, donc, est censé remplacer l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui lui-même avait remplacé l'ISF, l'impôt, merci à un moment donné, sur la solidarité, impôt de solidarité sur la fortune, ok ? Tout en sachant que ce nouvel impôt sur la fortune improductive peut-être ne sera jamais voté au final, hein ? C'est ça qu'il faut, dont il faut se souvenir. Allez, lisons l'article. Du Monde. Ah, j'essaie de vous lire en même temps, parce que ça c'est un des défis que j'essaie de faire, c'est que je lis les articles et j'essaie de vous lire également dans le chat, dans les deux chats, Twitch, TikTok, pour voir un petit peu de quoi vous discutez, mais quand vous voyez que je ne relève pas ce que vous dites, même quand c'est très pertinent, c'est parce que je n'arrive pas à tout faire en même temps. Hein ? On regarde ? Alors, Le Monde écrit que Sébastien Lecornu est un Premier ministre en lévitation, sans majorité, ayant renoncé aux principales dispositions constitutionnelles pour contraindre le Parlement, hein, puisqu'il a dit qu'il n'utiliserait pas le 49.3, pressé par l'urgence budgétaire. Rarement un chef de gouvernement n'aura été sujet à de telles fragilités dans l'exercice du pouvoir. Pourtant, depuis sa seconde nomination, puisqu'on est déjà à Lecornu 2, l'ancien ministre des Armées tente de tirer parti de ses faiblesses, hein, son absence de majorité, son manque de temps, l'impopularité du chef de l'État, pour neutraliser les formations politiques, tiraillé entre la peur d'une dissolution et celle d'une compromission avec le macronisme. Donc, pour résumer, mission difficile, mais il essaye. Une semaine après le début des discussions sur la partie recette du budget, plusieurs signaux d'alerte inquiètent Matignon et Bercy. À l'Assemblée, la lenteur des discussions, le vote de mesures fiscales totalement inopérantes, ça c'est ce que pense le gouvernement, le ministre de l'économie, par des majorités de circonstances qui vont du RN à la gauche, voilà, et le rejet en commission des parties recettes de ce budget et du projet de loi de financement de la Sécu font craindre l'impossibilité de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre. Je vois un Méven sous-côté qui nous écrit « Coucou Samuel, actuellement en cours, on se détend entre deux cours avec ton live, ça fait plaisir ». Lecornu, qui a déjà connu en 3 semaines un premier gouvernement avorté au bout de 14 heures, une démission et une tentative de censure, fait mine de relativiser, pardon, salut maman, cette impasse politique, rejetant la responsabilité de l'instabilité sur les partis, sur les formations. Hein. Lecornu dit oui, bah, c'est pas de notre faute. Hein, c'est... À l'Assemblée, ils prennent leur temps, quoi. Nous pouvons y arriver, mais il faut que chacun ait envie d'y arriver, dit Lecornu. Si cela ne devait pas fonctionner, si les oppositions veulent censurer, qu'elles censurent, c'est leur droit constitutionnel, mais le gouvernement ne sera pas responsable dès lors que toutes les voies de compromis ont été ouvertes. C'est malin ! Salut Alex, bonne route, sois prudent. Merci Socadence. C'est malin ! Hein ? Lecornu dit, attendez, moi j'ai donné la main au Parlement, hein. Moi j'ai donné la main à l'Assemblée. Hein. Je vous ai même dit que je n'avais pas utilisé 49.3. Hein. Les gars, si on n'a pas un texte dans les temps, c'est pas de ma faute. Hein. C'est de la vôtre. Malinx. Le Premier ministre, qui a repris en main le projet de budget pour 2026 de Bayrou, surveille donc l'avancée des discussions, les majorités de circonstances qui se font, qui sont des fonds, blablabla. Voilà. Mais après de longues semaines de tractations avec le PS, Lecornu se heurte à une réalité. Pardon. La suspension de la réforme des retraites n'a pas fait bouger une seule voix dans l'hémicycle en faveur des budgets du gouvernement. C'est le flou, c'est le brouillard. Ça, voilà. Il y a un constitutionnaliste connu qui s'appelle Benjamin Morel qui dit « Un gouvernement qui lance un texte au Parlement pour voir comment il est amendé avant de se demander s'il y a une majorité pour le voter, ça ne peut pas fonctionner », dit-il. Oui, crayon 4 couleurs. Mon papa était un amour... Mon papa, j'ai connu mon papa toute sa vie avec des crayons 4 couleurs. Il était... Je sais pas, c'était son crayon. Voilà, et du coup, maintenant qu'il n'est plus là, j'ai récupéré quelques-unes de ses marottes, de ses habitudes. Et j'ai toujours un crayon 4 couleurs. Comme mon papa. Je Continue à lire l'article du Monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Sébastien Lecornu compte sur les prochaines étapes de la navette parlementaire. Donc, parce qu'après l'Assemblée, ce sera au Sénat, bien sûr. Commission mixte paritaire, la CMP dont je vous parlais tout à l'heure. Deuxième lecture à l'Assemblée. Après, ça revient à l'Assemblée. Hein, pour faire disparaître les amendements les plus sujets à caution, comme l'alourdissement de la taxe sur les GAFAM, hein, l'impôt des insoumis sur les multinationales, hein, et celui de la transformation de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, en impôt sur la fortune improductive. Donc là, on lit que Lecornu, il espère bien que ce qui va se passer va enlever les amendements les plus problématiques pour le camp macroniste, voilà, et la droite. C'est pour ça que je ne m'appesantis pas trop sur ce qui est voté actuellement, parce que tout ça peut disparaître. GAFAM, c'est grande fortune? Non, GAFAM, c'est les grosses boîtes internationales, tu sais, du numérique, là. Les métals et tout ça. Merci, Tarlopop. Je vous lis l'article vite fait. En 2-2. En zoom-zoom, on peut dire ça ou pas? Qu'est-ce que veut dire exactement cette expression que j'ai déjà entendue dans des textes de rap en zoom-zoom? On dit zoom-zoom, on dit zoom, on dit quoi? Ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. On dit zoom-zoom? On dit pas zoom-zoom? C'est zoom-zoom et ça veut dire quoi? Ah, zoom-zoom, sous-marin! En sous-marin. En secret. Mais laisse-moi zoom zoom zem dans ta Benz Benz Benz. Du coup, c'est quoi? C'est autre chose? Donc, laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. C'est autre chose. C'est rien à voir. Okay. Donc, en zoom zoom, c'est en sous-marin, c'est en discret. Ok, très bien. Laisse-moi zoom zoom zen, c'est faire des encens? Ah oui, ça n'a rien à voir. Oh merde. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz, c'est faire des enfants? Ah, je l'avais pas. Vous l'avez? Je l'avais pas. C'est pas le même zoom. Ah ok, d'accord, ok. Copuler dans une. Dans une BM. Ah ben non, dans une Mercedes, du coup. Ok, je l'avais pas. Ok, je l'avais pas. Ok, soum, soum. Alors, note pour moi-même, soum soum n'est pas équivalent à zoom zoom. Ok. Ok, très bien. Je le note. Je le note. Je le note pour la prochaine revue de presse. D'accord. Donc, je continue en soum soum cette lecture de l'article du Monde. Ok. Voilà. Conséquences politiques de tout ça, je vais à la fin de l'article. Si le débat budgétaire tend à devenir illisible, ça d'accord. Voilà. Les sondages, eux, sont formels, chacun de leur côté. Le RN et LFI profitent de l'instabilité au détriment du bloc central. La dynamique est vraiment du côté du RN, mais les deux blocs les plus opposés au budget, le RN et LFI, ont progressé dans cette séquence. Voilà. L'opposition aux mesures budgétaires des gouvernements Bayrou puis Lecornu leur donne un élan, observe Bernard Sananès, qui est le président d'un institut de sondage. Ah, je me dis, mais il est où mon article sur les impôts? Il est là. Voilà. Lisons ça. Alors, c'est quoi ce nouvel impôt sur la fortune? Nouvel impôt qui ne sera peut-être pas voté au final. Mais comme ça, si vous avez vu passer des choses sur Internet à ce sujet, comme ça, vous savez de quoi les gens parlent en ce moment à la machine à café. Un nouvel impôt en France, voilà, sur la fortune improductive à la portée limitée. Les députés ont donc approuvé, c'était vendredi, une modification de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Son rendement reste encore assez flou. Bon, lisons ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est ni le grand soir fiscal espéré par certains, ni la folie des taxes redoutées par d'autres. Le nouvel impôt sur la fortune improductive, approuvé vendredi, ressemble plutôt à une retouche modeste à apporter à la taxation actuelle du patrimoine. Rappelons que le président Macron, c'est une de ses premières mesures lors de son premier mandat, a remplacé l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui rapporte moins et qui ne touche que la propriété immobilière. Les riches du tchat, là. Vous connaissez tout ça, hein? Donc, le rendement de ce nouvel impôt s'annonce limité. La mesure, si elle se concrétise, à l'issue d'un long et très incertain processus d'élaboration du budget, pourrait pénaliser avant tout les petits millionnaires. Hein? Ce nouvel impôt, il va toucher les petits riches, pas les très gros riches. Bon, moi, je trouve ça un peu contre-productif. Le vrai sujet en France, c'est comment, à un moment, tu demandes aux très, 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 très riches, les ultra-riches, de participer à l'effort général. Ce nouvel impôt, a priori, c'est plutôt pour toucher les petits riches, les petits millionnaires, pas les très, 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 très riches, pas les 1200 plus grosses fortunes de France, quoi. Qui, elles, vont plutôt bien s'en tirer. C'est pas foufou, ça, ouais. Bon. Après avoir rejeté les différentes versions qui lui étaient soumises de la taxe Zucman, celle-là, elle a été repoussée. Hein, la taxe Zucman n'a pas été votée, qui, elle, était vraiment une taxe sur les ultra-riches, hein, les 1200 plus riches. Un amendement modifiant l'impôt existant sur la fortune immobilière, l'IFI pourrait donc transformer cet impôt en impôt sur la fortune improductive. Alors, le texte donc a été voté, blablabla, blablabla, grâce à une alliance inattendue de députés socialistes, Modem et Rassemblement National. Le reste de la gauche, voilà, et de la droite s'y est en grande partie opposé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Du côté du RN, d'ailleurs, on s'est réjoui de cette grande victoire sur son programme économique. Voilà. Parce que le RN, ils sont contents. Alors, qu'est-ce que c'est que cet impôt ? Alors, déjà, l'article rappelle que l'actuel IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, il est payé par 186 000 foyers en 2024. Donc on est sur les riches. Sur les riches, en tout cas en propriété immobilière. Hein ? La taxe Zucman, on parle de 1200, 1300 foyers. Là, on est sur l'IFI actuellement payé par 186 000 foyers. Okay. Comment est modifié cet impôt ? En modifiant l'assiette de l'impôt. C'est-à-dire que ça ne porte pas seulement désormais sur les propriétés immobilières, mais sur d'autres actifs jugés improductifs qui échappent actuellement à l'IFI. L'impôt actuellement en vigueur exclut de son assiette des biens improductifs comme l'or. L'or, demain, serait taxé. Les gens qui détiennent de l'or. Les pièces de monnaie, idem. Bon, mais Nico, je vois que tu es très heureux, mais je vais te demander de t'apaiser, d'apaiser ta joie quand même. Hein. À tout à l'heure. Les trolleurs, là. Voiture de collection, pareil. L'or est taxé. L'or est taxé dans ce texte. Pas le texte, et on n'est pas sûr qu'il s'applique. Oui. Les voitures de collection, les yachts, les œuvres d'art. Ça, c'est une vraie nouveauté, parce qu'en général, les œuvres d'art... échappe à l'impôt sur la fortune, et là, les œuvres d'art seraient taxées. De quoi faire hurler certains ? 1% par an, parce que ce serait 1% par an, de tous ces biens. Vous rendez compte ? Hein ? Ça veut dire évaluer le moins de bibelots chez vous et payer dessus, si ce n'est pas Ikea, s'est enflammé l'économiste libéral Olivier Babot. Jamais les œuvres d'art n'avaient été intégrées à l'ISF, c'est vrai. Voilà. A aussi réagi l'association Sites et Monuments. On incite par conséquent nos grandes fortunes à les vendre aux pétromonarchies, magnats chinois et autres milliardaires américains moins taxés que nous. L'amendement adopté prévoit également d'inclure dans l'assiette de l'impôt les actifs numériques. Les cryptos, les crypto-monnaies, les gars. T'as du bitcoin, t'as acheté du bitcoin il y a très longtemps, ça vaut plein de sous. Bim ! 1% tous les ans. Ça, c'est nouveau. Ainsi que les assurances-vie pour les fonds non alloués à l'investissement productif. Alors, il y a un truc qui a beaucoup de succès en France, c'est les contrats d'assurance-vie. Dits en euros. contrat d'assurance vie, hein, qui rapporte à bon an mal an du 2%, 3%, 1,5% par an, ça dépend du moment. C'est un placement relativement sûr, qui est très apprécié des Français, notamment les contrats d'assurance vie pour sa capacité en termes de comment dire, de dans le cas d'une succession, pour qu'une partie échappe à l'impôt sur la succession. Donc c'est un placement qui a beaucoup de succès en France. C'est le contrat d'assurance vie en euros. Eh bien, désormais, ces contrats d'assurance vie en euros seraient taxés tous les ans à hauteur de 1%. Voilà. Sauf si le contrat d'assurance vie est investi en unité de compte, en action. Voilà. Il exclut en revanche les actifs immobiliers dits productifs, les biens loués, par exemple, à plus d'un an. Voilà, répondant à des critères notamment environnementaux. Bon. Un sous-amendement socialiste, adopté, exclut en outre de l'assiette un bien par foyer fiscal. Donc vous pourrez enlever un bien pour les très riches qui vont payer cet impôt, un bien de l'assiette. En général, la résidence principale ou secondaire, avec un abattement d'un million d'euros. Ça se sera enlevé. Deuxième grande modification obtenue par Jean-Paul Mattei, seuls seraient taxés les particuliers dont la fortune dite improductive dépasse 2 millions d'euros. Avant, le seuil pour payer l'IFI, c'était 1,3 million. Et là, a priori, le seuil serait 2 millions. Il faudrait que, pour les gens concernés dans le chat, là, il faut que votre fortune improductive, donc ben, en gros, je vous la fais très courte, mais tout ce que vous avez sur vos comptes courants, tous vos contrats d'assurance vie en euros, tous vos cryptos, tout votre immobilier avec l'abattement qu'on vient d'évoquer là, tout votre or, toutes vos belles voitures, tous vos tableaux, il faut que ça ne dépasse pas 2 millions d'euros. Voilà. En revanche, ce qui est placé en économie dite productive, les actions, comment dire, l'outil professionnel, la valeur de l'entreprise que le chef d'entreprise détienne, les biens immobiliers loués dans certaines conditions, ça ne rentre pas dans l'assiette. Le taux est modifié, hein, puisque avant on était, hein, je sais plus combien. Aujourd'hui, l'IFI est taxé selon un barème progressif. Ça va de 0 pour la part de la fortune inférieure à 800 000 euros jusqu'à 1,5% au-delà de 10 millions. Dans le nouveau dispositif, c'est 1%. 1% tous les ans. Voilà. Oh, petite phrase importante. En gros, faut rien déclarer. Alors, le savoir est une arme, oui, c'est déclaratif. Tu fais une déclaration hier d'ISF, d'IFI, demain de cet impôt sur la fortune immobilière, c'est déclaratif. Tu fais une déclaration. Voilà. Alors, si tu peux omettre de déclarer, tu peux oublier de déclarer, tu peux oublier des choses dans ta déclaration, mais en cas de contrôle fiscal, mon chouchou, voilà. Comme dit Snow 7, ne déclare pas, tu verras quand ça vient sonner chez toi.
Ouais.
Franchement, si c'est pour pas dormir sous ses deux oreilles en attendant le petit coup de sonnette, le petit recommandé du fisc en disant, dis donc, monsieur Étienne, ça va la vie, vous n'avez pas oublié de nous remplir un petit document? Hein, tu vois, bon, après, vous faites ce que vous voulez. Donc, petite phrase importante, 1% de prélèvement tous les ans. Appliqué à la fraction du patrimoine net taxable excédant le seuil retenu. Alors, si je comprends bien cette phrase, elle est très importante, c'est comme quoi parfois quelques mots ça change tout. Un taux unique de 1% appliqué à la fraction du patrimoine net taxable excédant le seuil retenu. Alors, ça, c'est si on lit bien ce français, le seuil retenu c'est 2 millions, donc normalement, le 1% s'applique à tout ce que tu as au-delà, voilà MMG, exactement, au-delà des 2 millions d'euros. Imaginons, si le monde ne s'est pas trompé et que j'arrive à lire correctement cette phrase, tu as 2 millions et 1 euro, tu seras taxé à 1% sur 1 euro. Donc si tu as 3 millions d'euros, tu seras taxé à 1% sur 1 million d'euros. Voilà. Ouais, c'est pas sur l'intégralité de ta fortune. Ça, je l'avais pas vu, ça. Ok. Remplacé par un taux unique de 1% appliqué à la fraction du patrimoine net taxable excédant le seuil retenu. Ok, d'accord. Jean-Paul Mattei justifie ce blablabla, c'est du blabla. Blablabla. La conséquence directe que l'amendement retenu vendredi va en théorie, écrit Le Monde, frapper beaucoup plus les petites fortunes que les grandes. Ça va taxer plus les millionnaires que les milliardaires en France. Voilà. Contrairement à la taxe Zuckman. Voilà. En gros, ce nouvel impôt va nettement alourdir l'impôt des particuliers dont le patrimoine est compris juste au-dessus des 2 millions d'euros. Les gens qui ont 3 millions d'euros de patrimoine, 4 millions d'euros de patrimoine. Voilà. À l'inverse, pour les fortunes dépassant les 10 millions d'euros, voilà, le taux de prélèvement serait réduit d'un tiers, passant de 1,5 à 1%. Ils ont quand même réussi à créer un impôt qui va baisser l'impôt des ultra-riches, quoi. Excusez-moi. C'est génial. Merci Pierre-Yves, merci Terlopop, merci Lightchin, merci GG Blues, merci. Merci Vénusia, merci René, merci Lilo. Voilà. Voilà, plus t'es riche, plus ça baisse, exactement. Donc voilà, c'est, on touche pas aux ultra riches, on touche aux riches. Voilà. Résumons, nous dit Le Monde, par rapport à l'impôt actuel sur la fortune immobilière, le nouvel impôt prévoit une assiette un peu plus large, mais avec un seuil relevé à 2 millions d'euros, les exonérations notables et un taux plus bas pour les gros contribuables. Quel serait le résultat final? Combien ça va rapporter? Parce que c'est la question qu'on se pose. Aucun chiffrage officiel et fiable n'est encore disponible. À voir. Voilà. Certains disent que ce nouvel impôt va rapporter 2 milliards de plus que l'ancien impôt, l'IFI, hein, qui faisait entrer 2,2 milliards d'euros en 2024, par exemple. Donc on passerait à 4 milliards. 4 milliards. Voilà. Alors, quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, tout ça pour ça. Bah oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, tout ça pour ça. Tout ça pour ça doublement. Tout ça pour ça parce que finalement, bah, on voit que les riches vont être un peu plus taxés, mais que les très très riches vont l'être pas plus, voire plutôt moins. Et tout ça pour ça parce que toutes ces discussions à l'Assemblée, ce vote sur ce nouvel impôt, tout ça va peut-être être balayé dans la suite de la discussion parlementaire, dans la commission mixte paritaire notamment. Voilà. C'est pour ça que je ne vais pas y passer 10 jours non plus. Rendez-vous dans quelques semaines et on verra si cet impôt est vraiment mis en place, ou un autre d'ailleurs. Ok. Mais je voulais vous tenir au courant parce que vous êtes un public de qualité, un public qui aime savoir, un public qui aime bien savoir ce qui se passe actuellement. Voilà. Et donc même si tout ça n'est pas très très sûr, à un moment, un public averti. Bah exactement. Un public riche. quelqu'un a écrit un public riche. Donc je me suis dit, bah, ouais, peut-être qu'ils veulent savoir. Un public millionnaire. Riche de... Ouh, Clemso dit riche de savoir. Préviens Émilien ce soir au cas où. Vous me régalez. Est-ce qu'un public averti en vaut deux? Bravo. Il y a Nonobstant qui dit « Zuckman, c'était 15 à 25 milliards. Les macronistes ont crié à la surévaluation en disant que ça valait pas le coup. Et là, ça nous sort 2 milliards, sans doute surévalué aussi. » C'est pas faux. C'est hyper intéressant. Riche en points de chaîne. Bon, en tout cas, voilà, je vous ai mis au courant du truc, quoi. Ok ? Il y a Fabrica qui nous dit « Moi, je suis impatient d'avoir à m'inquiéter de ce genre de mesure, en tout cas. Plus que 999 493 euros et je suis concerné par cet impôt. » Tu as suivi le drama avec Énergie ? Pas du tout. Il se passe quoi avec Énergie ? Merci, un pack de bière, tu régales. Ça, c'est du pseudo. Il se passe quoi avec Énergie en ce moment ? Énergie. Actualité. Alors, je vois pas la polémique. Ah, c'est le gars qui a gagné un jeu, là. Énergie double votre salaire. Et en fait, finalement, il a pas gagné, c'est ça? Ouais. Bon, oui, ça a quelques jours, déjà. Oui, on va pas... Écoutez, si ça vous intéresse, vous tapez Énergie jeu sur Internet. Vous avez Google, un petit Google Actu, vous avez l'info. Hein. Je préfère vous parler de Chine. Non, mais oui, effectivement, l'affaire n'a pas l'air très très nette, mais ouais. On va pas parler de toutes les escroqueries en France, hein. On va manquer de temps. Ok? On passe à Chine. Let's go. Salut Peewees. Merci Godzilla pour le soutien. Alors, Chine, et on est à 1h19 de revue de presse. Pour ceux qui nous écoutent en replay ou en podcast, et on vous embrasse d'ailleurs, on vous salue, merci de nous écouter. Ah, vous y attendiez pas, hein? Tranquillement dans votre voiture ou dans votre cuisine ou en train d'écouter ce podcast et dire oh, il nous pense à nous. Eh oui, on pense à vous et on vous embrasse bien fort d'ailleurs. À tous ceux qui nous écoutent en replay. 1h20, j'ai mis 1h20? J'ai mis 1h20. Ok. Et je vous mets la flèche TikTok parce qu'on vous aime aussi. Ah, vous êtes où? Là. On va parler des fameuses poupées pédopornographiques là, mais quel scandale, quel scandale, quelle honte. Bonjour aux Canadiens qui nous écoutent, je vois qu'il y a du Canada, salut Auguste et Musique. Alors, c'est quand même la une de Libération cette histoire. Dès hier, il y avait des articles, j'ai attendu d'avoir un dossier un peu complet là-dessus. Chine en France, donc Chine c'est la marque d'ultra fashion. Mais bien sûr, Julien, je vous aime sur TikTok. Je vous aime sur TikTok. Je vous aime sur Twitch. Je vous aime sur YouTube. Je vous aime sur en podcast. Je vous zoom zoom zen dans la Benz Benz Benz. Voilà ce qui se passe. Donc, le géant chinois, c'est la une de Libération, de l'ultra fast fashion, débarque mercredi, donc ça c'est demain, en physique, au grand magasin parisien, le BHV, sur fond de polémique autour de la vente sur la plateforme en ligne d'une poupée à caractère pédo. Pornographique, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a un édito de Lorraine Provost. Lorraine Provost, c'est une journaliste de Libération qui écrit d'excellents éditos, des articles qui, un édito qui résume un petit peu toute une histoire en donnant un petit peu son avis. Je ne suis pas sûr que Samuel a bien compris le sens de laisse-moi zoom zoom zen dans ta benz. Si, j'ai compris. Mais je suis un petit coquin. Je suis même très chaud. Lisons. Provocation. Un mois de vives polémiques, de grèves, de pétitions, de fuites des marques, des investisseurs, mais rien n'a arrêté le patron de la société des grands magasins, Frédéric Merlin. Mercredi, le géant chinois, merci Lemmings, le géant chinois de la mode ultra éphémère Shein ouvrira son tout premier magasin physique au BHV. Première mondiale. S'enthousiasme le gérant qui s'affiche avec le président exécutif du Chine en façade du bâtiment. Il y a une immense affiche sur la façade du magasin BHV à Paris avec les deux gars, voilà, qui regardent tous les gens qui disent ouais, c'est pas normal, qui disent c'est quoi le message? C'est un peu allez vous faire foutre, en gros, hein. C'est un peu ça. Ouais, un peu le message. Comme le dit MMG, une petite com bien agressive. Voilà. Une énième provocation, écrit Lorraine Provost, alors que le même week-end, la découverte de poupées sexuelles à caractère pédopornographique sur le site du e-commerce a fait bondir jusqu'au plus haut sommet de l'État. Le ministre de l'Économie qui a assuré qu'en cas de récidive, il demanderait à ce qu'on interdise l'accès à la plateforme Shein en France. Merci Lirbidge Live, merci beaucoup. Les faits sont graves et pourtant insuffisants à bannir le site d'e-commerce du territoire ou même des moteurs de recherche comme Google. La France semble incapable de stopper le rouleau compresseur chinois. La finalisation de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile attend toujours. Et sans l'aide de l'Europe, le bras de fer paraît perdu d'avance et quand bien même le loup est déjà dans la bergerie. Le corner du BHV n'est que la première étape de l'implantation physique de Chine qui ouvre 5 autres magasins en France ce mois-ci aux Galeries Lafayette de Dijon, de Reims, de Grenoble, Angers et Limoges. Je crois que c'est le même groupe qui détient ces Galeries Lafayette et le BHV. Alors quoi ? S'interroge Lorraine Provost. Il ne reste plus qu'à en appeler à la responsabilité des consommateurs, à eux d'oublier les t-shirts à 1 euro pour se préoccuper de la liste longue comme le bras des fléaux qu'amène Chine en France et dans le monde, la pollution de la marque championne planétaire des émissions carbone. Microparticules de plastique, vêtements polyester, montagnes de vêtements jetés, produits toxiques, conditions de travail indignes, emplois détruits par la concurrence déloyale quand on ne respecte ni les droits sociaux ni la sécurité du consommateur. À la fin, ce serait donc au consommateur de faire face au colosse dont le chiffre d'affaires a atteint les 38 milliards de dollars en 2024. Il y a comme un problème. Il est pas mal cet édito. Il est pas mal cet édito. Tu vois, il y a Tony Kea qui dit « Je ne suis pas client Chine car la qualité est catastrophique, mais c'est un peu facile de tirer sur le BHV. Un Français sur trois a du Chine dans sa garde-robe, ça répond à une demande. » C'est ce que dit Lorraine Provost. On peut en appeler la responsabilité du consommateur, mais c'est un peu facile. Donc quelque part, Libération dit c'est au pouvoir politique d'agir pour interdire ce genre de pratique. Voilà. Et au niveau de la France, c'est un peu compliqué. Il faut que ce soit au niveau européen. C'est un petit peu ce qu'elle dit. Lisons l'article notamment sur la poupée là. La plateforme chinoise aux pratiques commerciales agressives arrive mercredi à Paris sur fond de polémique après la découverte de poupées pédopornographiques dans son catalogue, mais l'État semble démuni pour juguler son expansion. Obérix me dit « Ces poupées immondes sont aussi sur Amazon. » C'est vrai ? Quel enfer. Quel enfer. Voilà. Haro sur le vilain méchant site. Présent en France depuis 2015, Shein est devenu depuis ce week-end carrément infréquentable après que des poupées pédopornographiques ont été repérées sur ce bazar en ligne. Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, qu'on interdise l'accès de la plateforme Shein au marché français, a prévenu le ministre de l'économie. Samedi, la Direction générale de la répression des fraudes a annoncé avoir fait un signalement à la justice. Sanction possible, 7 ans maximum d'emprisonnement pour les personnes physiques, 100 000 euros d'amende. Voilà. Est-ce que ça inquiétera sérieusement Shein, dont les dirigeants ne résident pas dans l'Hexagone et dont le chiffre d'affaires supporte très aisément ce genre d'amende? Le site de Fast Fashion jure que cela ne se reproduira pas et a annoncé lundi avoir interdit la vente de ces produits de type poupée sexuelle. Voilà. Le ministère de l'économie d'ailleurs confirme que les actions judiciaires sont en cours contre d'autres vendeurs en ligne pour le même motif. Temu. Je ne connais pas trop moi. Et AliExpress. Temu. Non. Arrêtez. Arrêtez, je vous demande de vous arrêter. Temu, notamment. Ok. Bon, on veut dire Temu. Hein. Temu, ok. Donc Temu AliExpress. Voilà. En 2021, une autre plateforme chinoise, Wish, avait été différenciée en raison de produits dangereux. Ok. Quelqu'un me disait tout à l'heure, à vérifier, c'est pas évoqué par l'article, que Amazon, sur Amazon, on pourrait aussi trouver ce genre de produits. Reste que l'État est pauvre en outils pour faire face, et les opérateurs concernés l'ont parfaitement intégré dans leur stratégie. Leur stratégie, c'est quoi ? D'abord, saturer le marché à tarifs très attractifs. On ne peut pas afficher des prix aussi bas sans recourir à l'activité forcée, en dépassant les horaires légaux de travail ou en ne tenant pas compte de la réglementation environnementale. La liberté du commerce est un principe de nature constitutionnelle. L'État ne peut s'opposer à la distribution de produits vendus, certes à bas prix, mais pas à perte. Eh ouais. Deuxième étage de la fusée, gagner en respectabilité. C'est le sens de l'accord passé avec le BHV, voilà, visant à y installer dès mercredi ses produits sur 1200 mètres carrés. Voilà. Lundi sur Instagram, Frédéric Marlin, le patron du BHV, a certes condamné la vente de poupées à caractère sexuel, mais il défend toujours son alliance avec le géant, Chine. Au cœur de la polémique depuis des semaines, le BHV, qui est en grande difficulté économique, espère malgré tout se relancer grâce à cette union. Même objectif pour les 5 Galeries Lafayette en région. Ou encore Pimki. Pimki, autre chaîne de distribution de vêtements en France qui est en difficulté, qui est même passée par la case de redressement judiciaire et qui a passé également un accord de distribution avec Shein. Hmm. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui permette à l'État de lutter contre Chine, qui ne vend pas à perte, hein, qui fabrique des produits dans des conditions extrêmement problématiques pour les gens qui travaillent dans ces usines et pour l'environnement, mais il n'y a pas de loi qui permet à l'État français d'interdire Chine. Tout repose, nous explique Libération, sur un texte en cours d'examen par le Parlement. La loi sur la fast fashion pourrait significativement perturber le modèle économique de ces sites, de deux manières. D'abord, en les privant de toute forme de publicité, c'est-à-dire qu'on interdirait la pub, hein, comme pour le tabac ou pour l'alcool. Pour Chine et ses confrères, l'impossibilité de recourir à des mots-clés sponsorisés pourrait devenir un vrai casse-tête. Aujourd'hui, du fait de ce système, quand un consommateur tape sur un moteur de recherche pantalon en coton beige, il a de fortes chances d'être dirigé en premier vers ces sites. Donc, interdiction de pub. Ensuite, le mécanisme de malus financier permettrait de pénaliser un par un chaque article qui entre dans le giron de la loi. Si un t-shirt vendu 5 euros est frappé d'une pénalité équivalente de 5 euros, sa marge bénéficiaire va s'en trouver sérieusement affectée. La riposte peut également venir du budget 2026, dans lequel le gouvernement a intégré une taxe de 2 euros sur les petits colis à l'intérieur. Inférieur à 150 euros est venu de l'extérieur de l'Union européenne. Donc ça vise clairement ce genre de production, quoi. Le but est très clair, enrayer le tsunami de produits vendus par Chine ou son homologue, la plateforme Temu. Temu. Voilà. Bon, c'est assez clair en tout cas. Je vous lis un petit peu et puis on enchaîne sur cette histoire de poupée pédopornographique là. Je vous lis. Ils n'ont qu'à voter un texte très sévère sur les vêtements importés qui ne respectent pas certaines normes. Bah, c'est un petit peu ce qui se passe là. Comme quoi, la politique, hein, ça n'est pas toujours que des dingueries. Parfois, la politique, c'est aussi des possibilités de solutions à des problèmes. Je vous lis, je vous lis. Il y a Sébastien Lecornu en sueur qui écrit taper sur Chine à cause des conditions de travail, ça me fait doucement rire. On pourrait regarder du côté de chez nous, comme Decathlon par exemple. C'est exactement la même chose, mais comme c'est français et que ça appartient à une riche famille, personne n'en parle. Je vous lis. Alors lisons cet article de poupée là. Vente de poupées pédopornographiques, ces entreprises se foutent du monde. Après le signalement des pratiques du Chine à la justice samedi, une action a été organisée devant le BHV à Paris lundi. Les associations de défense des droits de l'enfant réclament une politique publique claire pour lutter contre la pédocriminalité. Donc là, ça revient sur la manif de lundi. Depuis plusieurs semaines, explique Libération, les mannequins en silicone au visage poupin, tenant des oursons dans leurs bras, étaient en libre accès pour quelques centaines d'euros sur Chine. Dimanche, RMC révélait que la plateforme AliExpress avait également mis en vente les mêmes poupées. Le modèle de ces géants d'Internet, sans modération poussée, rend possible ce type de dérive. Un militant de l'association explique: ces entreprises se foutent du monde, elles se foutent des lois. Hein, on demande que les acheteurs soient poursuivis. Ces poupées sont des objets pédocriminels sur lesquels des prédateurs s'entraînent malheureusement, parfois avant de passer à des sévices sur des enfants. Réagit Sarah El Haïry, qui est la haute commissaire à l'enfance. Qui fait un travail très intéressant d'ailleurs, Sarah El-Haïry, en ce moment, on en a parlé ici pour que l'enfant soit, dans plein de situations diverses en France, mieux protégé que dans le passé. On en a déjà parlé à deux reprises ici. Sarah Lahiri qui souhaite que les plateformes transmettent les informations sur les acheteurs, ce qui nous permettra de lancer un certain nombre de contrôles et voir s'il y a des enfants qui sont en danger. Un précédent a déjà eu lieu en 2020 sur Amazon. Quelqu'un me disait tout à l'heure, ah, sur Amazon, il y a les mêmes poupées. Alors, a priori, ça a été le cas en 2020. Sur Amazon, en 2020, des poupées enfantines à caractère sexuel étaient aussi en vente libre. A priori, ils ont dû arrêter. À l'époque, l'association La Voix de l'Enfant était parvenue à obtenir la condamnation d'un acheteur à 3 mois de prison, avec sursis, pour acquisition de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique. Amazon, considéré comme un simple hébergeur, avait échappé aux poursuites. Claire Bourdi, fondatrice du collectif Enfantiste, fulmine au téléphone. Ça montre bien qu'en 5 ans, rien n'a été fait pour éviter la vente de ce genre de produits illégaux. Ces plateformes sont dans le rendement. Il faut plus de moyens pour les contrôler, même si ça ne les arrange pas. Dans 5 ans, ce sera qui ? On recommencera et on dira que rien n'aura changé. Pour elle, il faut marteler partout que si quelqu'un se sent attiré par des enfants, il faut se soigner. Les associations de défense des droits de l'enfant se mobilisent donc pour exiger une politique publique claire pour lutter contre la pédocriminalité et la pédopornographie. Voilà. Voilà l'histoire. Je vous montre la une de Libé. Je vous lis. C'est intéressant ce que dit Astia Lavista. Ce ne sont pas les pratiques de Chine qui sont en cause, c'est le modèle économique de toutes ces plateformes de marketplace. Si des humains vérifient tout ce qui est vendu, ce n'est pas viable économiquement. Ça, c'est très intéressant, ça. Je vous lis. Oui, c'est mon ventre. Oui, vous avez, pardon, certains ont entendu mon ventre qui gargouille, c'est vrai. Il y a une petite faim, je suis désolé. Désolé, désolé. Un truc à grignoter. Non, j'ai arrêté le grignotage. J'essaie de faire de mon corps une statue grecque. Vous voyez les statues grecques? Vous voyez un peu? Hein? C'est un peu le, c'est l'objectif. Hein? Je veux que l'été prochain, en me promenant de façon nonchalante sur la plage, en short de bain, accompagnant mes enfants, voilà. Avec le, comment ça, la statue grecque avec le petit zizi là? Ah oui, c'est vrai. Voilà, d'un air nonchalant et en même temps avec une démarche un peu féline, le corps entièrement couvert de dragons, je veux qu'on se dise waouh, mais est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est une statue grecque? Tu vois, c'est un peu le projet. Bon, je dis ça chaque année. Depuis très longtemps et je n'arrive jamais à cet objectif. Oui, un peu façon Aldo Machone, la classe, exactement. C'est vrai qu'une des caractéristiques des statues grecques, comme le dit Cyril, c'est qu'elles ont un petit zizi. C'est vrai. Pourquoi d'ailleurs ? Démarche féline, pas phalaire, j'ai l'image, merci Samuel. Pas du tout, pas du tout. Maillot de bain. Oh, perso, je suis plus proche du grec, le sandwich, me dit Caribou. Jolie celle-ci. Technique, j'aime. Quoi? Petit zizi plus facile à sculpter. Chez les Grecs, un petit zizi était bien vu et viril. Ok, on est sur un autre débat là. Ok. Ok, très bien. C'était noble d'avoir un petit sexe à cette époque. Ah bon? Mais vous êtes plein à me dire ça. Gros zizi, c'était une insulte chez les Grecs? Ah bon? Ah ouais. Je savais pas ça. Du coup, il y a Hortax qui dit, bah, du coup, je suis un peu grec, moi aussi. Ok. Donc, ça veut dire que ceux qui ont des petits zizi dans le chat, vous pouvez littéralement dire que vous avez des zizi de dieu grec. Il y a Miss Blackmoon qui dit, j'écoute en faisant autre chose, mais comment on est passé de Chine aux zizi? Oui, bonne question, oui. Oui, vous avez raison, je vais enchaîner, je pense, plutôt. Ouais, on va faire ça, hein? Ok. Let's go, on va aller sur l'élection municipale à New York. Ouais, on va faire ça. On va enchaîner, je pense. Ouais, c'est une bonne idée. Allez. On est sur un terrain bizarre. Alors, je vous mets la petite flèche. Je vous la mets où? Je vous la mets sur Mamdani, maire de New York, point d'interrogation, puisque évidemment, je crois que le vote n'a pas commencé à New York. Enfin, sauf pour ceux qui ont voté par procuration. Et hop, Mamdani, maire de New York, point d'interrogation, on aura le résultat tard ce soir, je pense. Salut, Sansway. Et donc, on est sur du 1h41 pour le TC, le timecode. 1h41. Ça tryhard l'actu ce matin. Alors, qu'est-ce qu'une histoire? Ça me ferait bien un petit café, moi. J'ai le droit à un petit café ou bien? Vous m'autorisez un petit café ou pas? Vite fait? Vite fait? Fais-toi plaisir? Ok. Ça, c'est mon café d'hier après-midi. Parce que j'aime bien le café froid. J'en ai pour 10 secondes. J'ai lancé le café. Le café froid, c'est pas possible. Oh, c'est trop bon le café froid. Qu'est-ce que je vous mets? Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que vous voulez comme un long, un court? Qu'est-ce que je vous mets? Venez, on se barre tous pour la blague. Ça va, Clodo du 16? T'en as d'autres des comme ça? Eh oh, ouais, de quoi je vis moi après? Ça va pas, non? Un double, un thé, un expresso, un bien long, sans sucre, serré, un liégeois. Un double caramel, un double quoi? Un double expresso? Un latté glacé sirop caramel? Un court, comme le reste. Un court apparemment. Un liégeois, un petit thé, un long sans sucre. Un cappuccino, un chocolat chaud. Ok. Une vodka? Non, non, c'est trop tôt. On y est. Ah, je me dis, mais ils sont où les Trumpistes? Je me disais, tiens, j'ai annoncé un article sur Zoran Mamdani, qui est vraiment pas très Trumpiste. Je me dis, mais ils sont où les Trumpistes? En France, on a plein de Trumpistes, ils sont où? J'en ai trouvé un. Salut Castor. Castor 389. Deux points, ouvrez les guillemets. Rien d'étonnant pour New York. Cette ville est rendue de bobos gauchistes woke. Ils représentent pas les États-Unis, et heureusement. C'est top parce qu'en fait, même en France, on a des Trumpistes. Salut mon castor, ça fait plaisir en vérité. Effectivement, New York, c'est pas les États-Unis. L'anti-Trump à la conquête de New York. On en a déjà parlé hier, on va en reparler aujourd'hui. La mégalopole américaine pourrait être dirigée pendant 4 ans par Zoran Mamdani, donc c'est ce monsieur. Il a 34 ans, il est musulman, il est progressiste, il dit même qu'il est socialiste, et souhaite notamment augmenter les impôts des plus riches. New York aura-t-elle ces 4 prochaines années le visage jovial et juvénile de Samuel Etienne ? Non, de Zoran Mamdani. Cet homme politique de 34 ans, donc il est un peu plus âgé que moi, encore inconnu il y a quelques mois, est en passe de devenir contre toute attente le maire de la mégalopole américaine. Le sommaire, vous l'avez pas le sommaire ? Ah, je vous ai pas mis la flèche ? Ah, pardon. C'est vrai. C'est vrai. Mamdani. 1h45. C'est vrai. Ok. Bien vu. Les sondages le donnent largement en tête de l'élection qui a lieu aujourd'hui. Hein, les bureaux de vote vont s'ouvrir là dans quelques heures, je crois. Aux États-Unis. Aux States. 45% contre 32% pour l'ancien démocrate, désormais indépendant, Andrew Cuomo, et 18% pour le républicain Curtis Sliwa. Pour beaucoup, l'élection semble jouée. La capitale de la finance mondiale devrait être dirigée ces 4 prochaines années par un ovni politique qui se définit comme socialiste. Socialiste aux États-Unis, pour beaucoup, c'est un gros mot. Hein. Une singularité aux États-Unis qui n'a pour seule expérience qu'un seul mandat de conseiller municipal et assume tranquillement sa foi musulmane. Voilà. En 2025, alors que les plus puissants n'auront jamais détenu autant de pouvoir économique et politique, est-il possible pour les gens ordinaires, pour les travailleurs, de s'unir et de vaincre ces oligarques? Absolument, s'est enthousiasmé le sénateur Bernie Sanders, la figure tutélaire de la gauche aux États-Unis, dont se réclame d'ailleurs Mamdani. Il y a OMP qui dit hey, « Je suis du Sénégal, mais tu fais plus question pour un champion. » Si, je le fais le week-end. Mais il n'y a plus de sous à France Télévisions, donc ils arrêtent plein de démissions. Voilà. Mais moi, ça me permet de streamer plus. Donc en fait, c'est cool. Zoran Mamdani a construit son succès sur un mot qui a parlé à tout le monde, affordability, hein, le coût de la vie abordable. Le loyer moyen à New York tourne autour de 3 500 $ par mois. 3 500 €? Non, le dollar il n'est pas un euro là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça raconte le Parisien? Qu'est-ce que ça dit là? Le dollar il est très faible en ce moment. Qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise? 1 euro c'est 1,15 $. Hein. Donc 3 500 $ ça fait pas 3 500 €. Hein. C'est moins. C'est plutôt 3 000 €. Dis donc le Parisien, il faudrait voir à bosser un peu ses règles de 3. Hein. Donc 3 500 $ par mois alors que le revenu moyen à New York se situe autour de 6 000. Donc t'as la moitié de ton salaire qui part sur ton loyer, quoi. Il en a déduit plusieurs propositions aussi symboliques que prometteuses. Geler les loyers des logements réglementés, c'est 40% du parc locatif. Améliorer le réseau de bus, le rendre gratuit. Créer un système de crèches gratuit. 5 épiceries municipales à prix coûtant et augmenter les impôts sur les plus hauts revenus. Sa volonté de taxer la richesse effraie les milliardaires de Wall Street. Martin Luther King a dit il y a des décennies, appeler ça démocratie ou socialisme démocratique, mais il doit y avoir une meilleure redistribution des richesses dans ce pays, aime rappeler Mamdani. C'est particulièrement vrai aujourd'hui. Dans la ville la plus riche du monde, un New-Yorkais sur 4 vit dans la pauvreté. Les gens ne se posent plus la question de ce qu'ils veulent ou aiment, mais ce dont ils ont besoin. Au-delà du fond, c'est la forme qui a plu. Une campagne menée à la fois sur le terrain par une armée de volontaires et sur les réseaux sociaux via des vidéos percutantes. C'est ça que je vais faire, moi, en 2027. 2027, c'est ça que je veux faire, moi. C'est réseaux sociaux, terrain, on va voir les Français. Voilà. Peut-être un petit peu de médias traditionnels aussi. Parce que, sur une appli de sondage dont on a parlé, Politesse, récemment, on a lancé un sondage qui est « Est-ce que vous voulez que Samuel Etienne se présente à la présidentielle ?» Et en fait, dans le décompte du sondage, il y a le vote par classe d'âge. Et vous allez rire, mais les gens qui veulent que Samuel Etienne se présente à la présidentielle, ce sont les gens jeunes. Ce sont les jeunes Français et les jeunes Françaises. Et contrairement à ce que dit Ryugu Fight, qui dit « Tu vas cartonner auprès des vieux, Sam », eh ben c'est l'inverse. Les vieux ne veulent pas que je me présente à la présidentielle. Les vieux, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Les vieux ne veulent pas que je me présente à la présidentielle. C'est les jeunes qui veulent que je me présente. C'est quoi votre problème, les vieux? Je vais vous niquer vos retraites, moi. Je vais vous péter vos retraites, moi. Vous allez voir ce que vous allez voir. La bagarre, je vous prends tous en 1v1, moi. C'est quoi cette histoire-là? C'est fou, ça. Parle fort parce qu'ils n'entendent pas. Ouais! Je vais venir vous chercher, moi. Donc, bizarrement, je serai plus populaire auprès des jeunes que des vieux. Bon, ça. Donc, je continue. J'arrête de délirer. Voilà. Au-delà du fond, donc les propositions sur le pouvoir d'achat, c'est la forme qui a plu. Une campagne menée à la fois... Tout ça pour vous dire que j'irai peut-être aussi dans les médias traditionnels, les vieux médias, la radio, la télé, la presse écrite, pour parler aussi aux vieux. Mais on parlera fort, du coup. Pour bien qu'ils entendent. Au-delà du fond, à New York, c'est la forme qui a plu. Une campagne menée à la fois sur le terrain par une armée de volontaires et sur les réseaux sociaux via des vidéos percutantes. Comme lorsque le candidat a inventé le mot halalflation. Halalflation. Contraction de halal et inflation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En allant interroger des vendeurs ambulants dont beaucoup à New York proposent une nourriture halal et qui souffrent de frais trop élevés. Zoran Mamdani a séduit bon nombre d'électeurs pour sa capacité à formuler des messages simples et applicables immédiatement. Voilà. Les jeunes notamment se sont enthousiasmés pour cette personnalité politique qui leur ressemble et parle comme eux. Il y a Euphrosine Emeraude qui dit « C'est méprisant ce que tu as dit, je ne veux pas d'un président méprisant perso. » Et boum ! Contrôle fiscal, Euphrosine ! Voilà ! Allez, je photographie ton pseudo, 2027, contrôle fiscal. Voilà, c'est parti. Et voilà, gagné.
Le monstre. Le monstre.
Ah ah, je suis pauvre. Eh ben t'auras quand même un contrôle fiscal. Hein? T'auras peut-être pas d'amende, mais t'auras de la paperasse. J'aime bien parce que ça a beaucoup d'humour quand même, c'est cool. Ah, je kiffe. Dictateur un peu le Samuel. Allez Flo! Contrôle fiscal. Tiens. Il y en a d'autres qui sont pas contents? Moi, j'ai voté pour toi depuis toujours. D'un gage, t'inquiète, toi, t'en auras pas de contrôle fiscal. D'autres? Des commentaires? Il y a des gens qui râlent? Moi, je suis très content, tout va bien, poum, impeccable. Toi, tu seras tranquille, toi. Et ta famille aussi. Non, c'est super, tout va bien, Julien, pleine forme. Vive Samuel, gloire, merci, dealer. Ok. Je vote pour toi les yeux fermés. Ok, tout va bien. Je plaisante bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas compris, tout ça est une énorme vanne. Donc, Zoran Mamdani a séduit bon nombre d'électeurs pour sa capacité à formuler des messages simples et applicables immédiatement. Les jeunes, notamment, se sont enthousiasmés pour cette personnalité poétique qui leur ressemble et parle comme eux. Comme Samuel Etienne en France, par exemple, n'écrit pas Le Parisien du tout, je viens d'inventer cette phrase. Ce dimanche, le trentenaire est venu passer une tête pour encourager les bénévoles qui s'apprêtaient à aller tracter dans le quartier de Harlem. Voilà. Bon, blablabla, blablabla, rencontre avec les militants, tout ça. Il est beau, il est sympa. Il est jeune, il a des bonnes idées, voilà, voilà. Il croit à l'équité et il la défend. New York a détrôné Los Angeles comme la ville où il est le plus cher de vivre. On ne peut pas demander à ceux qui ont le moins de payer le plus. S'attaquer à la pauvreté, s'attaquer à la moitié des autres problèmes de cette ville. Pour beaucoup, Mamdani constitue le miroir, l'inverse de Donald Trump. Même capacité à articuler des discours de manière simple, mais pratique opposée de la politique. Merci Café au lait. Merci. Merci la chieuse, merci Soulé. Je serai le maire de tous les New-Yorkais, répète Mamdani, qui dérange la Maison Blanche et qui en semble très heureux. Je ne vais pas laisser ce communiste cinglé diriger New York. Qui dit ça, vous l'avez deviné, c'est bien sûr Trump. Et en plus, il est pro-palestinien. Dans une ville qui abrite la plus grande communauté juive hors Israël, il n'hésite pas à parler de génocide à Gaza et s'est engagé à arrêter le Premier ministre Netanyahou sous mandat de la Cour pénale internationale si jamais Netanyahou foulait le sol de New York. Se dresser face à Trump, ça n'est pas rien, c'est même très courageux, pointe Youssef Salam, qui en fait sait quelque chose, puisque l'élu avait fait partie dans les années 80 de ces 5 ados accusés à mort du meurtre d'une femme dans Central Park. Ils avaient passé 8 ans en prison avant d'être innocentés. Dans l'intervalle, Trump s'était payé à l'époque une page dans le New York Times pour demander la peine de mort à leur encontre. Ah, manque de bol, ils ont été innocentés. Mamdani donc face à Trump, l'opposition fait beaucoup parler et certains se demandent à gauche si le Parti démocrate devrait plutôt suivre justement cette voie new-yorkaise pour reconquérir les électeurs. Le Parti démocrate aujourd'hui, il est moins à gauche que Mamdani, quoi. Le mamdanisme peut-il faire de l'ombre au trumpisme, sachant que Mamdani ne peut pas se présenter à la présidentielle aux États-Unis, lui, puisqu'il n'est pas né sur le sol américain. Beaucoup en doutent, mettant en avant la fracture toujours plus béante entre les aspirations, les modes de vie des habitants des grandes villes et ceux du reste du territoire. Au sein même de son parti, il est parfois vu comme trop progressiste, trop à gauche pour les démocrates. Les ténors l'ont soutenu du bout des lèvres. Barack Obama a juste fait fuiter en fin de campagne qu'il avait échangé au téléphone avec le candidat, lui avait prodigué des conseils. On a connu des soutiens plus francs. Je ne deviendrai jamais complaisant, promet le candidat qui a suscité son lot de critiques dernièrement. Celles qui concernent son manque d'expérience font le plus mal. Le candidat démocrate n'a occupé qu'un poste de travailleur social avant d'être conseiller municipal. Ce qui inquiète de nombreux New-Yorkais, est-ce qu'il saura gérer un si gros budget ou si une catastrophe survient ? S'interroge le gérant d'un magasin d'alimentation. Bon, à voir. Résultat, dans quelques heures. Samuel regarde un petit peu ce que raconte notre pote Castor, il y a de quoi parler. Oh, qu'est-ce qu'il dit Castor encore ? Alors. Allez, un petit historique pour le plaisir. Oh, je comprends pas tous les mots. Ouais, parce que bon, Castor, il est à fond sur le sujet. Bon, c'est très bien. C'est très bien. En tout cas, il y a rien d'insultant dans ses propos. Enfin, même s'il n'est pas d'accord avec d'autres, il exprime de façon que je trouve ok, quoi. C'est quoi l'image de Tintin derrière toi ? Cette case n'existe pas dans l'album. Oui, c'est un tableau que m'a offert mon beau-papa, Damien. C'est une création, en fait. C'est comme j'aime lire les journaux, on a mis un Tintin qui lit les journaux. Par contre, on parle jamais du candidat républicain ? Non. Bah non, mix. Parce que l'article en parlait. Le candidat républicain, il est crédité 18% des voix, si tu veux. Donc on va pas passer deux jours sur lui. Hein. Il a aucune chance d'être élu. À un moment, je veux bien... Est-ce que ce sont des personnages fictifs comme Tintin qui te donnaient envie d'être journaliste ou rien à voir ? Si, ce sont mes lectures d'enfants. Ce sont mes lectures d'enfants de figures de journalistes dans les livres, dans les BD, Rouletabille par exemple, qui m'ont donné envie enfant de faire ce métier, tout à fait. C'est vrai. OMP, je suis du Sénégal, mais tu fais plus question pour un champion. OMP, je t'ai répondu il y a 10 minutes. Faut écouter maintenant, bordel ! Hein ? Je t'ai répondu déjà tout à l'heure, mon chouchou. Merci Soda Mecraft. OMP 30 vient de réécrire « Je suis du Sénégal et tu fais plus question pour un champion ». C'est-à-dire que OMP 30, je suis au boulot. Oui, mais je t'ai répondu 10 fois déjà. Je t'ai répondu. Il n'y a plus de sous à question pour à France Télévisions. Ils arrêtent tout. Donc, et c'est une bonne nouvelle parce que du coup, je peux streamer plus. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Bordel ! Merci OMP. C'est bon, il a entendu. C'est juste un petit peu de ping, je pense. Un petit coup de ping. J'étais pas concentré. T'inquiète, OMP. Merci à toi. Bon. Intéressant. Bon, bah, demain matin, on en parlera. Je sais pas si on aura le résultat demain matin. Hein? h 59. Allez, je vous fais un petit compte-rond. 2 heures. Sora 2, la dérive des deepfakes. Alors là, attention là. Les amis, si jamais vous me voyez faire des dingueries sur Internet dans les prochains jours, les amis, c'est pas moi. C'est un deepfake. Hein. Quoi que je fasse, ça n'est pas moi. Enfin, si c'est bien, si c'est sympa, c'est moi. Si c'est une dinguerie, c'est pas moi. Hein. C'est deepfake. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Réseau social Sora 2, article dans Libération. L'affolante dérive des vidéos faites par IA. Sorte de TikTok de l'intelligence artificielle, la nouvelle invention de l'entreprise derrière ChatGPT a réussi une prouesse en un mois, offrir un concentré du pire des deepfakes. Un Martin Luther King raciste, un Michael Jackson vogueur de nuggets en France où l'outil n'est même pas encore accessible. Le youtubeur Thibaut InShape a aussi fait l'objet de détournements problématiques. Si jamais tu montes Gold sur Valo, ce sera deepfake? Non, ça, ce sera vrai, ça. Merci OMP, tu régales en vrai. Merci pour ton message. Le tournant sera peut-être un jour dans les livres d'histoire. Le tournant sera peut-être un jour dans les livres d'histoire. Cet été, les moins de 30 ans ont vécu une prise de conscience collective. Tout part d'une vidéo qui circule sur les réseaux. Un ours, filmé par une caméra de surveillance, rebondit gaiement sur un trampoline. Un ours qui rebondit sur un trampoline. Dans les commentaires, on s'épate, on se marre, on se vanne jusqu'au moment où on comprend que les images sont fausses, générées par l'IA. Ce jour-là, un frisson parcourt le peuple des millennials et de la Gen Z. En ligne, les boomers n'ont plus le monopole de la crédulité avec l'IA. Toutes les générations peuvent désormais être dupes, abusées, trompées. Moins de 5 mois plus tard, l'URSSID et son trampoline font pitié. La nouvelle application d'OpenAI, Sora 2, abreuve l'Internet mondial de deepfake. Des photos ou vidéos modifiées par l'IA avec un réalisme encore plus saisissant et une artificialité toujours plus indétectable. Voilà. Moi, j'ai vu des chiens avec des bazookas, me dit THMZ. Oui, mais c'est peut-être vrai, hein? Je trouve qu'on sous-estime beaucoup les chiens. Hein? Et pourquoi les chiens, ils n'auraient pas de bazooka? Donnez-moi une seule bonne raison. Un argument qui tient la route. Pourquoi? Je pose la question, j'ouvre le débat. Pourquoi les chiens n'auraient pas de bazooka? Les chiens sont très doués? Oui, Seal. Ils n'ont pas de pouce. Ouais, mais des bazookas spéciales chiens. Ils n'ont pas les doigts opposables. Ouais, mais des bazookas spéciales chiens. Tu vois? Pas de bras, pas de bazooka. Ok. Ok, peut-être. C'est peut-être un argument, ouais. Donc, fin septembre, l'entreprise à l'origine de ChatGPT a lancé cette plateforme entièrement composée de vidéos générées par l'IA, donc Sora 2. Concrètement, l'utilisateur commande par écrit le contenu qu'il souhaite et l'outil se charge du reste. Un résultat en 10 secondes max, audio compris, que l'internaute est libre ensuite de partager ou non. Innovation géniale ou boîte de Pandore. En un mois, Sora 2 a donné à voir un bon éventail des dérives possibles. L'exploit mérite d'être. Merci OMP. L'exploit mérite d'être souligné. Pour l'heure, Sora 2 n'est accessible également qu'aux États-Unis et au Canada sur invitation. Voilà. Mais l'application, téléchargée plus de 627 000 fois en une semaine, pose déjà problème en. Ne me dites pas que c'est en France. Si. Nom de Dieu. En France. En particulier au youtubeur le plus suivi de l'Hexagone, Thibaut InShape. Il y a clairement eu du débordement, regrette sur X le vidéaste aux 26 millions d'abonnés. Le trentenaire a, semble-t-il, donné son accord à la plateforme pour créer son caméo, son double en IA. Hein, il a voulu tenter une expérience, dit-il. Cette option permet à chacun de scanner son visage et, par la magie de l'IA, de se représenter dans toutes les situations à portée d'imaginaire. Voilà. Sur la lune, au dos d'un dauphin ou encore, pour les mégalos, à la tête d'un empire. Voilà. Thibaut Inchep s'est emballé en autorisant tous les utilisateurs de Sora 2 à s'amuser avec son double virtuel, la boulette. Merci Fouézy. Merci Fouézy. Merci Soulé. Merci René. En principe, la permission accordée à tous ou quelques-uns est révocable à tout moment, hein, à condition que les vidéos générées ne soient pas exportées vers d'autres réseaux sociaux. Voilà. Thibaut Inchep en a fait la mère expérience. Si je veux rester à l'ordre du jour, il faut rebondir de réseau en réseau, explique Thibaut Inchep, qui a écrit un livre, il est en pleine promo en ce moment. Voilà. Donc on le voit un petit peu à la télé. En quelques jours, les deepfakes du vidéaste créé sur Sora 2 ont submergé les autres réseaux sociaux, TikTok le premier. Drôle pour certaines, problématique pour d'autres. Hein. Dans certains clips, le sportif se découvre en train de faire la pub de marques qu'il n'a jamais mises en avant. Dans d'autres extraits, nombreux, on l'entend hurler des insultes racistes ou violenter des femmes. C'est tellement bien fait qu'il y a des personnes qui croient que c'est réellement moi, regrette le youtubeur dont les prises de position politique alimentent régulièrement les polémiques. Afin d'éviter toute confusion entre le réel et l'artificiel, l'application appose un filigrane Sora, hein, c'est marqué, c'est bon, sur les vidéos, un logo en forme de petit nuage que pléthore d'outils en ligne propose aujourd'hui d'effacer en quelques clics. Bon nombre de stars qui reposaient en paix ont été ressuscités par Sora 2, John Lennon, qui achète du thé dans un supermarché, Michael Jackson qui vole des nuggets, Amy Winehouse en plein tuto maquillage, des résurrections numériques loin d'être toujours respectueuse. Attaqué par un crocodile, piétiné par un taureau, tabassé par des catcheurs, le cosmologiste britannique Stephen Hawking, décédé en 2018, est brutalisé à l'extrême. Martin Luther King tient des propos grossiers, voire racistes. Après des plaintes de ses descendants, OpenAI a fini par bloquer la création de vidéos du leader des droits civiques. La fille de l'humoriste et acteur américain Robin Williams s'est aussi indignée. « S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des vidéos de papa », écrit Zelda Williams sur Instagram. Des internautes qui ne pensent pas toujours à mal lui partagent des clips générés par IA mettant en scène son père qui est mort en 2014. Et sa fille dit « Si vous avez un minimum de décence, arrêtez de lui faire ça », et d'ajouter « Ce n'est pas ce que lui aurait voulu ». Au lancement de Sora 2, la start-up n'avait pas jugé utile de demander un accord d'utilisation aux familles de personnages historiques, comprendre les morts. Devant la polémique, il y a eu un petit aménagement. Les représentants des défunts récemment décédés peuvent demander que leur image ne soit pas utilisée dans Sora. Le harcèlement était la dérive la plus anticipable. C'est assez intéressant ce papier. Mais ironie moins prévisible, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, est le premier à en avoir fait les frais. Le quadragénaire a en effet autorisé le grand public à s'amuser avec sa version IA. En résulte, une cascade de vidéos dérangeantes, voire rabaissantes. Dans un clip, la tête de l'entrepreneur rappe dans une cuvette de toilette. Dans un autre écœurant de réalisme, on le voit cuire Pikachu au barbecue avant de le couper en morceaux, ce qui est vraiment monstrueux. Voilà. L'homme d'affaires garde la face sur X, il déclare « C'est beaucoup moins étrange de voir un fil d'actualité rempli de mèmes de soi-même que je ne l'aurais cru. Je ne sais pas trop quoi en penser. » La journaliste américaine Taylor Lawrence, victime de harcèlement, s'est alarmée. « Quelqu'un a permis à mon stalker psychotique d'utiliser Sora, il est déjà en train de faire des vidéos de moi. » La reporter aux 300 000 abonnés raconte faire l'objet d'un pistage incessant, en ligne et dans la vraie vie, de la part d'un inconnu. L'homme en question la suit à divers événements, usurpe l'identité des amis sur Internet, pour lui parler et croit entre autres que ses articles contiennent des messages secrets lui étant destinés. C'est ce qu'on appelle un fou du bus. C'est moi qui rajoute ça. Voilà. La quadragénaire a réussi à le bloquer sur Sora 2, mais elle en frissonne encore. C'est flippant de penser que l'IA alimente ses délires. Vidéochoc et Image glauque ne sont pas les seules productions à avoir laissé quoi. La présence de quelques personnages de fiction étonne aussi. Bob l'éponge en train de faire de la mette. Waouh. Mario en pleine course poursuite avec la police. Eric Cartman sur le point de déménager au Canada, que des figures sous copyright. OpenAI a l'habitude de révéler sur les bases de données qui l'ont entraîné servi à entraîner ses IA, mais là on se demande s'ils ont eu recours à des contenus soumis à des droits d'auteur. En France, blablabla. Bon, en France, on verra ce qui se passe. Aujourd'hui, normalement, on n'a pas accès à ça, quoi. Bon, c'est fou, ça. C'est un peu flippant, quand même. Hein. Voilà. En fait, on est bien d'accord que cet outil est un outil incroyable pour tous les gens qui veulent désinformer, quoi. Hein, récemment, là, moi, j'ai participé à une campagne de l'INSERM pour parler des fausses informations qui circulent sur Internet en matière de santé. Un outil comme ça... Pour les faussaires, pour les créateurs de fake news, c'est ouf. Et c'est que le début, nous dit Flo. Hein? Ça va trop vite, ça va trop loin, ça va créer des catas, me dit Dale One. Cet outil va alimenter le harcèlement scolaire à un niveau que vous n'imaginez même pas, dit Pyrène 27. Je partage cette inquiétude. Et en plus, c'est hyper accessible. Tout le monde peut s'y mettre. Il suffit de faire un prompt en quelques mots, nous rappelle Onim Kiyu. À l'inverse, Absurde dit non, c'est un outil génial, il faut juste le réglementer, urgemment. Je ne comprends pas, me dit 7-7, que les politiques du monde entier ne légifèrent pas à ce sujet. J'ai même vu Trump porter une couronne dans un avion de chasse, envoyer du caca sur des manifestants, me dit MMG. Non, mais ça, c'est une vraie. Ça, c'est vrai, ça. Merci, Erwino. Non, ça, c'est vrai, ça. On ne pourra plus s'informer sur Internet, dit Bébé Coli. Sauf sur cette chaîne, bien sûr. Évidemment. Alors, ne parlons pas du revenge porn, comme dit Sugar Frog. Hein? Waouh. Je viens d'en faire une de toi, me dit Terraloc, me dit Max Monkey, pardon, avec une couronne sur la tête et lisant ton journal. Tant que tu ne me fais pas une vidéo où j'envoie du caca sur les gens. Alors, Clackbeck se montre plutôt rassuré. Il nous dit on se rappellera dans 20 ans comme on avait paniqué pour rien, comme souvent avec les technologies. Qui nous dit que Samuel Etienne qui commente cet article n'est pas une œuvre de Sora lui-même d'ailleurs ? Ça, on ne sait pas ça. On avait paniqué à l'arrivée du Minitel ? Ouais, etc. Je pense que tu es trop jeune, mais moi je me rappelle qu'il y a des gens qui avaient paniqué au moment du Minitel. Je te jure, je te jure. Alors que moi j'étais fasciné par ça. Je passais un temps fou sur Minitel, moi, quand j'étais jeune. Ouais. J'ai hacké le Pentagone, moi, avec mon Minitel. Ouais, j'ai failli provoquer une guerre nucléaire, truc de fou. Truc de fou. Non, pas 3615 Ula. Non, j'étais un hacker, moi. Mais non, pas Minitel Rose. Mais pas du tout. Voilà, Wargames. Putain, vous avez la ref. Bravo, Usul. Oh, tu régales. Sur les sites de Xavier Niel, j'ai la ref. Mon bon Xavier Niel. En plus, mon Minitel n'était pas rose, il était gris, donc vous racontez n'importe quoi. Menteur ! Your fake news ! Il était beige, le mien. Bon, les plus jeunes, vous ne savez pas ce que c'est le Minitel, c'était un terminal télématique. Beige et brun, pas gris. Moi, le mien était gris. Moi j'avais un, j'en avais un boosté, moi. J'avais une carte graphique de fou dedans. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Wargames. Comment il s'appelait l'ordinateur, déjà ? Le mien, il était boosté, moi. Exactement, une RTX 5090, c'est ça que j'avais. Joshua. Joshua. Joshua, c'était le mot de passe. Mais il y avait un Whopper ou un truc comme ça. Ouais. À pas confondre avec Weeper. Ouais. J'ai zéro ref. Ah, c'est un vieux film. Ah, je vous la. Ah, War Games. En fait, War Games, c'est un vieux film où un ado américain prend le contrôle, un petit peu hacker. Moi, j'étais fasciné par ce film quand j'étais jeune. Pénètre sans faire exprès dans le Pentagone et est sur le point de déclencher une guerre nucléaire avec les Russes. Trailer. Trailer War Games. Vieux film. C'était qui l'acteur déjà? Le jeune acteur était génial. Ouais, l'URSS, ouais. Matthew Broderick? Ouais, je crois bien que c'est lui, ouais. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé ce film? Qu'est-ce que j'ai aimé ce film? Allez, je vous le mets, je vous le mets. Let's go. Là, vous avez rien. Là, vous avez quelque chose. Ok, c'est ça. TikTok, je vous le mets aussi. Je vous enlève ça. Je vous mets ça. Ah, vous l'avez. Ah! Où est-ce que je vous l'avais? Vous l'avez. Ah! Non. Vous l'avez pas? Ah! Vous l'avez ici. Ok, let's go. Trailer War Games. Un film de 1983. Eh ouais! Eh ouais! Qu'est-ce que j'ai aimé ce film?
David Lightman was a master at computer games. A fast thinker.
Oh, David!
Le gars, c'était un geek. Matthew Broderick, c'était un geek, c'était un fanat d'ordinateur. On est au début des années 80 et j'étais fasciné par ce film. Voilà. Et voilà, c'était un peu le geek. Le geek. Le geek originel, voilà.
Maybe you could tell us who first suggested the idea of reproduction without sex.
Your wife?
Get out, Lightman.
And a promising student
Hi.
At an old game
Hi.
With an electronic twist.
Et là, vous savez ce qu'il fait là? Il est en train de changer les notes de sa petite copine là. Voilà. Il dit, ouais, elle a eu des mauvaises notes et tout. Il dit, attends, t'inquiète. Et il rentre dans l'ordinateur du lycée et il change les notes et il dit, non, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Ouais. J'adore, j'ai adoré ce film.
Are those your grades?
Yeah. I don't think that I deserved an F. Do you?
You can go to jail for that.
Only if you're over 18. This computer company is coming out with these amazing new games in a couple of months. And I want to play those games. Wow.
What?
We got something.
En vrai, son objectif, c'est de pénétrer le serveur d'un studio de jeux vidéo pour pouvoir jouer à des jeux vidéo avant les autres, quoi. Et en fait, à un moment, avec son petit modem là, bah, il hack sans savoir le Pentagone.
He found the right code word to play the game.
We're in.
But it was the wrong computer.
Shall we play a game?
How can I ask you that?
How about mobile thermonuclear war?
Fine.
All right.
Sauf que c'est pas un jeu. Sauf que c'est pas un jeu. Le gars, en fait, il pense qu'il joue à un jeu et en fait, il est en train d'envoyer des signaux comme quoi il y a des missiles qui partent en vrai, IRL. Le film est fou. Defcon.
What the hell? The trajectory headings for multiple impact re-entry vehicles.
What does that mean?
I don't know, but it's great.
All stations, this is Crystal Palace.
Wonder if I should use my subs.
22 Typhoon class submarines departing Petropavlovsk.
What in the hell's happening here?
Oh my god.
Shall we play?
I have seven. Correction, eight. That's eight Redbirds.
Get on the sack. Tell them to flush the bombers.
C'est génial, hein?
Russians are still denying everything, sir.
Who are you working with?
Nobody.
I do not believe you.
Du coup, il y a les services secrets qui l'arrêtent. Il se dit, mais enfin, tu vois, c'est un bordel. Le film, c'est War Games.
Confidence is high, I repeat, confidence is high.
Coverdale, is this an anxious
time.
Negative, this is not an exercise.
Give me the president on the horn.
It's still playing the game. It's gonna start a war.
Close up the mouth.
We're clear.
Is this a game or is it real?
War Games, playing soon at a theater near you.
Shall we play?
Génial ce film. Voilà. Et donc, voilà, moi j'ai adoré ce film à l'époque, 1983. J'avais 12 ans, je suis allé voir ça au cinéma. Et c'était fascinant, quoi. C'était pas mal en avance en vrai. Ouais, War Games. Hop, je vous remets tout bien. Capture de l'écran et hop, l'iPad. Là, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans en 83. Ouais. C'est un poil vieilli ? Non, ça va en vrai. En vrai, ça va. C'est marrant, hein, le film. J'avais jamais entendu parler de ce film, merci. Vous avez vu comment il est jeune, Matthew Broderick, là-dedans ? C'est ouf, hein. J'avais moins 17 ans, me dit Johan. Ah, c'est pas une compétition non plus, hein. J'avais moins 10 ans pour moi, moins 5 ans. Ouais, ouais. Sauf que moi, je m'intéressais à ces sujets de hacking, hein, de piratage, d'ordinateur, de pré-internet, quand vous étiez encore, pardon, passez-moi l'expression, dans les couilles de papa. Pardon. Ha. Et là, on ferme sa bouche. Voilà. J'étais déjà un geek, moi.
Voilà, c'est tout.
Ah, on dit que le film est dispo sur Prime Video. Ok, d'accord. J'étais un geek, moi. Ou t'es juste vieux, non, DJ Mecha ? Allez. Contrôle fiscal. Hop là. Prépare tes papiers. 2027. Allez, on finit par... Bah, justement, on va parler d'e-sport pour terminer. Voilà, avec un syndicat pour l'e-sport en France. C'est marrant, c'est intéressant, je trouve. Non ? Allez. La petite flèche. La petite flèche, je vous la mets. Hop, sur un syndicat pour l'e-sport. Oui, mesdames et messieurs. Touk. Touk. Touk, touk. Oh, je fais ça à une vitesse maintenant. Je suis vraiment un geek. La maîtrise du copier-coller sur cette chaîne est quand même d'un niveau stratosphérique. Ça copie-colle à la vitesse de l'éclair. Nick Heller. 2h22 de live. Ok. Comme ça, pour ceux qui nous rejoignent, vous savez où on en est. Merci, Ketzak. Alors, le syndicat français d'e-sport dévoile sa feuille de route. Kezenako. On est dans Les Échos, c'est un des journaux en France qui s'intéresse le plus à l'univers du jeu vidéo. Les Échos, déjà, GG à eux, quoi. L'industrie française du jeu vidéo compétitif, hein, a fortement progressé dans la hiérarchie mondiale. On n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais. Hein. Mais des fragilités économiques et un cadre législatif flou demeurent. C'est au-delà du syndicat, c'est un petit peu une photographie, un instant T du monde de l'esport en France, quoi. Après la création, la feuille de route lancée en mars dernier, l'UFCEP, l'Union Française des Clubs d'e-sport Professionnels, réunissant 12 structures professionnelles, lève le voile sur ses priorités et les avancées qu'elle juge primordiales pour structurer encore l'industrie du jeu vidéo compétitif tricolore et affirmer son rang dans la hiérarchie mondiale. Ces dernières années, l'e-sport français n'a cessé de prendre du poids au point de devenir la première place européenne du secteur et de figurer parmi les nations les plus en pointe de l'e-sport mondial, mesdames et messieurs. Voilà. Hein, comme la Corée du Sud ou les États-Unis. En 2025, la France a accueilli une flopée de grandes compétitions internationales sur Fortnite, Valorant, Rocket League. Et plusieurs teams, plusieurs clubs comme la Team Vitality, Gentlemates ou la K-Corp ont brillé en remportant des titres majeurs sur des franchises en vue. Sans parler de la présence de ce que certains appellent le dieu grec de l'e-sport français, Samuel Etienne, qui a participé à la scène VCT à Berlin. Les Échos ne l'ont pas écrit, mais ils auraient pu le faire. L'année 2025 est déjà historique pour l'e-sport français, mais nous restons un écosystème encore récent avec des modèles économiques de plus en plus robustes, mais à affiner. Pour certains clubs français, il suffit parfois d'un mauvais coup pour qu'une équipe disparaisse, et c'est alors une catastrophe pour l'écosystème. Souligne Nicolas Moret ou Morer. Je crois que c'est un des fondateurs de Vitality d'ailleurs. On dit Moret ou Morer? Moret, je dirais, c'était français. Hein. Faker, mais Moret, je pense. Président de l'UFCEP. Voilà, le jeu vidéo compétitif est important pour l'image de la France. C'est Moret, c'est ça, dit-il. Voilà, ça montre qu'on sait aussi être innovant sur de nouveaux secteurs. Poursuit celui qui est aussi cofondateur et PDG de Team Vitality. Pour l'UFCEP, deux dispositifs sont à sécuriser en priorité. D'une part, le passeport talent, permettant des facilités pour la délivrance de visas lors de recrutement de joueurs e-professionnels étrangers. D'autre part, la TVA à 5,5% désormais pour les billetteries e-sport, soit le taux standard des événements sportifs traditionnels et culturels. Alors qu'avant, je crois qu'on était à... On dit Morer ? On dit Morer ? Ah ouais, d'accord, ok. Ok. On dit Morer ? Tout le monde valide ? Oui ? J'ai l'impression qu'on dit Morer. On dit yes, ok. Et la TVA, donc, voilà, à 5,5% sur la billetterie e-sport. Comme pour d'ailleurs les événements sportifs traditionnels et culturels. Ça me semble bien normal. Ce niveau de TVA est une bouffée d'air, pour les, parce qu'ici on fait aussi les bruitages et les effets spéciaux, pour les organisateurs, et ça permet aussi une meilleure accessibilité au public de l'e-sport qui est globalement dans une tranche d'âge comprise entre, 30, entre 15 et 35 ans. Avant, c'était 20% avant. Ouais. Voilà. Et dont les moyens ne sont pas toujours énorme, voilà. Contrairement à leur niveau sur les jeux. C'est ce que dit Arnaud Moulet, membre du comité directeur de l'UFCEP et PDG du club GameWard. Concernant les nouveautés, le syndicat souhaite davantage de soutien des pouvoirs publics et que l'e-sport soit considéré sur un pied d'égalité avec les autres secteurs. Voilà. Alors, ce qui concerne le volet financier et plus spécifiquement la partie investissement. Une des problématiques de la qualification de l'e-sport se matérialise aussi dans les rapports de l'industrie avec le politique, puisque le secteur de l'e-sport en France dépend à la fois du ministère de la Culture, du sport et du numérique. Hein, donc les spécialistes du sujet disent que ce serait bien si on dépendait d'un ministère et pas de trois. Autre axe d'amélioration, les centres de formation. C'est le chaînon manquant entre le monde professionnel et les gamers qui jouent dans leur chambre. Un ministre de l'e-sport, ben moi président en 2027, je crée un ministre, ou en tout cas un secrétaire d'État, à l'e-sport. Mesdames et messieurs, on va mettre le paquet. On va mettre le paquet. On va bouffer les Coréens, les Américains, tout le monde. Voilà. Et on y mettra peut-être Loupiote. Oui, c'est vrai. Voilà. 2027, un secrétariat d'État à l'e-sport. Voilà. Voilà. Et on crée un écosystème économique pour booster tout ça. Tu m'étonnes, les vieux votent pas pour toi. Oui, tu m'étonnes. Ouais. Ouais. Non, c'est pas du cannibalisme. On va pas les manger IRL. On va les manger sportivement. Pourquoi ne pas laisser ce travail au ministre des Sports? Parce qu'ils font n'importe quoi. Voilà. Et on va donner la nationalité française à Faker. Oui, aussi Mix. C'est prévu. Voilà. Donc, axe d'amélioration, les centres de formation, c'est le chaînon manquant entre le monde pro et les gamers qui jouent dans leur chambre. Certains arrivent à émerger par eux-mêmes, ce sont des ovnis, expose Nicolas Morer. Ils ont besoin de dispositifs permettant plus facilement aux jeunes de se tester quelques années pour voir s'ils peuvent devenir pro, puis de reprendre leurs études s'ils n'y parviennent pas. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Pour l'heure, des possibilités d'aménagement existent, mais se font au cas par cas et directement, par exemple, entre le lycée du joueur concerné et le club d'e-sport. Une façon de faire artisanale, mais qui n'a que trop duré pour le syndicat, pour l'UFCEP. Il faut un cadre plus clair, mais aussi qu'on arrive à imaginer un modèle qui convienne à l'e-sport et ne soit pas une copie des dispositifs traditionnels pour le sport traditionnel. Derrière le thème e-sport, il y a une flopée de jeux et de réalité. Moi, président 2027, on créera un cadre. Comment dire, favorable à l'émergence, la construction durable d'une industrie du jeu vidéo et de l'e-sport en France. pour que la France devienne le pays numéro 1, numéro 1 au monde pour le jeu vidéo et l'e-sport. Point. Retour chariot à la ligne et c'est tout. Voilà. Ce sera l'une de mes mesures. Et puis c'est tout. La Corée va être dure à battre sur le sujet. Ah, mais on va pas leur laisser le choix. Hein. On va pas leur laisser le choix. Sinon, on envoie un contrôle fiscal à la Corée du Sud, exactement. Il faut avoir 500 signatures. T'inquiète. On a un plan. On a un plan. Merci les amis pour cette revue de presse. C'était cool, hein ? Hop. Je vous rappelle, ce soir, il y a un live. Il y a du live ce soir. Un live à ne pas rater, qui est que sur Twitch. Amis de TikTok, je vous attends, hein ? Viendez, hein ? Où est-ce que c'est ça ? C'est là. Hop. Ce soir, 20h, Twitch only, l'ami Emilien, le GOAT des 12 coups de midi, qu'on va coacher, à qui on va faire découvrir Valorant, avec la team, voilà, avec la ch'team. Ça va être super sympa. En plus, il est trop gentil. On va passer un bon moment. Il durera combien de temps ? Oh, bon, on va faire ça pendant 3 heures, un petit 20h, 23 heures, quoi. Hein ? L'Arabie Saoudite va toquer à ta porte, Samuel, fais gaffe. Ça va mettre des têtes. Salut mon sugar. J'espère que tu seras là, hein ? Ça va être sympa. Bon, c'était une bonne revue de presse. Merci les amis. Merci pour l'ambiance, la qualité des commentaires dans le chat. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Je vis ma meilleure vie. Oh ! Absurde écrit. Bonne continuation, Sam. On a bossé ensemble à Montparnasse. Ta revue de presse est sympa. Montparnasse, iTélé ? iTélé, l'ancêtre de CNews à une époque où cette chaîne était bien. La chaîne d'info de Canal+, était à Montparnasse. Au-dessus des voies de chemin de fer de la SNCF. Et moi qui étais breton, c'était bien pratique pour aller surfer en Bretagne. Je partais direct. Attends, absurde, tu travaillais à iTélé ? Incroyable en vrai. Ça fait plaisir. Raconte. Stéphanie. Non. Stéphanie, la chef d'aide ? Stéphanie, la chef d'édition ? Non. La script ? Mais c'est incroyable. Parce qu'il y avait une Stéphanie, chef d'aide aussi, tu te rappelles ? Avec des cheveux blonds, un peu frisottés, trop gentils. Incroyable. Oh, c'est fou. C'était une bonne époque, iTélé. La rédaction était super jeune, on faisait des teufs sans arrêt et tout. C'était top. C'était incroyable. Ah ben, ça fait plaisir. Merci, absurde. À chaque fois que tu l'as croisé, tu l'as snobé. Ah ben, Fifi, tu peux demander à tous les gens avec qui j'ai bossé. En 30 ans, dans toutes les rédactions où j'ai bossé, j'ai plein de défauts. Je suis vraiment pas un modèle. Mais en revanche, tu peux demander à tous les gens avec qui j'ai bossé, dans toutes les rédactions, dans toutes les chaînes, dans toutes les radios, dans toutes les rédacs, comment je me comporte avec les autres. Voilà. Dans quel que soit leur métier. Voilà. Et je peux te dire que je suis un mec chill, quoi. Et respectueux. D'ailleurs, Absurde répond, il m'appréciait parce que j'étais pro. Voilà. Non, là-dessus, j'ai plein de défauts, mais pas celui-là. Bon, on se retrouve ce soir. Hop, je vous enlève le sommaire. Ah non, faut pas que je l'enlève parce qu'après, faut que je l'envoie. Hier, j'ai oublié de l'envoyer pour le podcast. Les amis, merci. Amis de TikTok, à ce soir 20h, je vous ferai des gros bisous. C'était une belle journée. Soyez heureux et rendez les autres heureux autour de vous. Et sur Twitch, on va faire un raid. À demain matin pour la revue de presse. Hein. C'est tous les matins, c'est lundi, vendredi. Bien sûr, des bisous. À demain sur TikTok. À ce soir sur Twitch. Hein. Je compte sur vous. Avec Emilien, ça va être super cool. J'arrête le live. Amis de Twitch, qu'est-ce qu'on fait nous ? Hein ? Raid ! Il y a du monde sur TikTok maintenant. Hein. Vous voulez que je vous dise combien il y avait de gens ? Il y avait, on était 300. 300 les brouettes. Jusqu'à 463. Vous vous rendez compte ? Il y a du monde quand même. Hein. Il y a du monde quand même. Hein. Eh ouais. Alors, qui on raid les amis là ? Qui en raid ? Qui ne raid qui ? Qui est en live ? Allez, on regarde. Alors, fais voir. Let's go. Ouais. Pas mal en vrai. Bah, vous savez, moi je trouve que il y a beaucoup de médias traditionnels qui essaient d'arriver sur Internet, sur les réseaux et sur les plateformes, sur YouTube, sur Twitch. Certains le font bien, certains le font moins bien, certains sont bien cassés les dents, puis certains, je trouve, ont plutôt compris les valeurs de cet univers. Et dans ces médias qui, je trouve, sont arrivés sur Twitch et le font bien, bah, il y a l'Humanité, le journal L'Humanité, que je vous lis tous les matins, et qui est en live actuellement. Voilà, RMC, c'est aussi un bon exemple d'ailleurs. L'Humanité FR, qui est en live actuellement, qui parle de ce qui se passe au Soudan, de ce qui se passe au Sahara occidental, de Trump qui s'en prend au Nigeria, du Liban versus Israël. Donc, on a un stream d'actualité internationale et ils sont nombreux puisqu'il y a plus de 500 viewers. Il y a plus de 500 viewers actuellement sur la chaîne de Luma. Donc, ça montre bien que je ne suis pas le seul à penser que c'est de la qualité. Allez, on va voir les amis de Luma. Let's go. Luma, Nité, FR. Let's go. Voilà. C'est pour notre ami Castor là, qui nous parlait des États-Unis, ça va lui plaire. Ça va lui plaire. Castor, reste, tu vas te régaler. Par contre, sois poli. Hein. Voilà. Je suis en train de charger le raid. Je vous dis à ce soir pour le joli stream avec Emilien. Ça va être super. Ok. C'est en train de charger. Des bisous. Merci pour ce matin. Vous m'avez régalé. C'était super sympa de vous avoir avec moi ce matin. Et vous avez tout ça en replay sur YouTube, sur Twitch et en podcast audio. À tout à l'heure.
Et à côté, ils ont fait construire des maisons en parpaing, mais c'est le gros, grosse difficulté qu'ils ont, c'est le manque d'eau, évidemment. Mais alors, c'est très intéressant comme société. C'est une société donc démocratique qui est très matriarcale, où les femmes ont un rôle majeur dans la société, et notamment en général, c'est elles qui dirigent toute l'administration, puisque les hommes étant censés être des combattants. Ouais. Ce qui est le cas d'ailleurs, puisqu'ils vont se battre contre l'armée marocaine près du mur des sables, ou en tout cas dans la zone occupée. Mais c'est les femmes qui dirigent tout, et pas seulement les écoles ou quoi que ce soit. Elles dirigent y compris les mairies, etc. etc. Ouais. Les mairies des wilayas, ce qu'on appelle là-bas.
Bonjour à tous les raiders de Samuel Etienne, bienvenue à toutes et à tous, vous êtes très nombreux, nombreuses. Alors c'est un peu bête, vous arrivez à la fin de l'émission, c'était l'international, donc une fois par semaine on fait un tour de l'actualité internationale et on essaye de donner des éléments de compréhension, des éléments d'analyse pour bien comprendre ce qui se passe dans le monde. Et il se passe beaucoup de choses dans le monde, donc au programme d'aujourd'hui, mais je crois que c'est dans le titre, on a parlé des menaces d'Israël contre le Liban, on a parlé de ce qui se passe en ce moment au Soudan et avec Benjamin, on a parlé du tweet menaçant de Trump vis-à-vis du Nigeria, et puis évidemment ça nous permet aussi de replacer tout ça dans un contexte historique et géographique très particulier. Et on vient de finir, je pense qu'on arrive à la fin du Sahara occidental, puisque le 31 octobre il y a eu beaucoup de communication sur l'adoption d'une résolution à l'ONU qui valide le plan marocain sur le Sahara occidental. Mais donc avec Benjamin, il vient de nous expliquer que c'était un peu effet d'annonce, qu'il n'y avait pas grand-chose qui changeait, mais ça nous a donné l'occasion de revenir sur cette situation.
Juste faire un petit résumé, du coup,
oui, bien sûr.
Pour cette résolution.
C'est un très bon exercice, voilà. Tu as une minute trente pour résumer tout ça.
Le Conseil de sécurité n'a pas changé sa position depuis 2007. L'autonomie marocaine, le plan d'autonomie, reste une proposition qui est sur la table, mais ce n'est pas une décision. Le principe de base, c'est l'autodétermination des Sahraouis. Ça demeure un droit inaliénable reconnu par les Nations Unies. Et troisième chose, la MINURSO poursuit sa mission, donc mission des Nations Unies pour un référendum au Sahara occidental. Ça porte bien son nom, ça veut dire que le référendum est toujours...